propose aujourd'hui, la chaussure. On va faire un petit pot pourri de différentes nouvelles. Il se trouve que mon métier, c'est l'astrophysique, l'astronomie. L'astronomie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste à regarder le ciel, puis à voir ce qu'il y a dedans, et puis comprendre qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça ressemble, comment ça a démarré, comment ça se passe, et comment ça continuera. Donc, les grandes questions, on essaie d'y répondre. Et c'est une science très ancienne, puisque c'est même la plus ancienne des sciences. C'est bien antérieur à la physique, à la chimie, aux mathématiques, etc. Mais c'est en même temps peut-être une des plus modernes, puisque actuellement deux disciplines dans le monde scientifique explosent. C'est la biologie, science de l'homme, et l'astronomie, science de l'univers. Et vous retrouvez les questions fondamentales que se posaient les anciens, à savoir qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, où allons-nous, notre passé, notre futur, est-ce qu'il y en a d'autres, etc. Et je ne dirais pas que je répondrai à ces questions aujourd'hui, enfin on verra si vous voulez que je précise. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse discuter de la place de l'homme dans l'univers, à savoir qu'est-ce que notre vie a un sens, etc., si on n'a pas un minimum de connaissances de biologie qui a complètement explosé récemment, et d'astronomie qui a aussi complètement explosé. Alors voilà ce que je vous propose. Je propose une introduction, un petit peu longue, qui vous paraît peut-être un peu banale, mais dans laquelle je vais plaider ce que nous faisons, c'est-à-dire à quoi ça sert de faire de l'astronomie, à quoi ça sert de faire de la science. Et peut-être parmi vous, s'il y en a qui aiment ça, je peux vous dire que moi, j'ai eu la chance de faire ça complètement par hasard, et je me régale. Donc c'est extraordinaire, c'est même pour moi le plus beau métier du monde. Ce qui fait qu'actuellement, je lutte pour la suppression de la retraite. Donc j'ai fait une manif, j'étais seul dans la rue. Donc voilà, donc déjà, vous dire à quoi ça sert. En un mot, est-ce que la République française, est-ce qu'il est normal que la République française m'offre à la fin de chaque mois un salaire astronomique Est-ce que c'est justifié? Donc je vais essayer de justifier auprès de vous ce type d'activité. À quoi ça sert? Ensuite, ce que je vous propose, c'est comment on fait pour voir le monde. Quand vous voulez connaître quelque chose sur Terre, vous avez vos cinq sens. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, etc. C'est-à-dire vous prenez un objet, puis vous le regardez sous toutes les lumières, vous le touchez, vous le goûtez, vous l'embrassez, vous le caressez, etc. Vous voyez qu'est-ce que c'est? Dans le ciel, on ne peut pas toucher les étoiles, on ne peut pas sentir les planètes, ou on ne peut pas, avoir l'odorat des galaxies. Donc on n'a qu'une chose, c'est la lumière. Or la lumière, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vous dirai rapidement, on va parler d'abord de la lumière. Ma réponse, pour ceux d'entre vous qui devraient partir tôt, la lumière, on ne sait pas ce que c'est, mais on l'utilise. Et donc la lumière ne donne qu'une partie de l'information. Donc on verra que cette information n'est pas si simple. C'est-à-dire, ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est, et ce qui est, on ne le voit pas forcément. Mais comme les astronomes sont très malins, on a trouvé plein de choses de manière quelquefois un petit peu indirecte. Donc je vous donnerai ça. Alors ce que je vais essayer de faire ensuite, c'est un petit pot pourri de différentes choses. Alors le pot pourri, c'est quoi? C'est, moi j'aime bien commencer à chaque fois que je fais des cours à mes étudiants, je leur donne les nouvelles que je n'aurais pas pu donner la semaine d'avant ou le mois d'avant. Tout le monde dit la science, c'est quelque chose qui est vivant, qui change sans arrêt. C'est pas un texte, on répète toujours le même pendant 2000 ans. Non, c'est un truc qui varie, c'est vivant la science. Et il y a des nouvelles, nous avons des nouvelles de hier soir, de la semaine dernière. Donc je vais essayer de vous en donner quelques-unes. Alors dans ces nouvelles, il y en a une par le système solaire. Le système solaire, c'est les planètes. Et pour la première fois dans notre histoire, les planètes, nous les explorons. On va sur place. Et l'aventure que nous vivons en ce moment, c'est de Christophe Colomb qui, prenant un bateau en 1492, trouvait un nouveau continent qui était l'Amérique. La Terre, ça y est, on ne la connaît pas complètement, mais on l'a quand même pas mal explorée. Et bien maintenant, on explore les planètes. Et je vous avoue que moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais membre de l'équipe d'imagerie de la mission Voyager qui a été lancée en 1977. Aucun d'entre vous n'était né. Votre maman était au biberon. Qui a tenu jusqu'en 1989, où on a exploré successivement Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et je me souviens que le moment de l'arrivée, qui était un point de lumière dans le ciel, aucune connaissance dessus, c'est devenu des mondes à part entière, avec des montagnes, des volcans, des geysers, des cratères, des vallées, etc. Donc c'était des découvertes extraordinaires. Puis maintenant, les planètes, on y retourne. J'ai la chance d'être membre d'équipe d'imagerie de la sonde Cassini. Et pour vous donner un petit peu ce que c'est que les expériences que nous faisons, elles durent une génération. C'est-à-dire que je me souviens, j'étais dans un bureau avec 15 collègues à Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles. Et c'est une session au mois de juin 1980. Donc votre grand-mère était encore bébé, et à ce jour-là, on s'est dit, si on tournait vers Saturne. Alors les copains, je me suis dit, non, c'est trop compliqué, ça coûtera trop cher, on ne le fera pas. Et puis, moi, je leur ai dit un slogan que je vous conseille, c'est dans la vie, il suffit de dire qu'une chose est impossible pour qu'elle le devienne. Donc on s'est battu, coût de la mission 4 milliards d'euros, pas une somme très élevée, puisqu'on voit ce que font les banquiers avec ces sommes-là actuellement, on fait aussi bien en ce qui nous concerne. Donc on a été voir les chefs d'État, on a mis notre cravate, on a mis ceci, on a dit, vous n'avez pas 4 milliards qui traînent? Ils ont dit, oui, mais avec ça, on fait des autoroutes, des hôpitaux. Non, ce qu'on propose, c'est beaucoup mieux. Et finalement, en 1990, on a eu le feu vert. C'est une mission qui est payée à 3/4 par les États-Unis, 1/4 par l'Europe. Nous avons donc sélectionné les scientifiques entre 1990 et 1991. J'ai eu la chance d'être mis dans l'équipe d'imagerie. Nous avons construit la sonde, pas moi, moi je suis Portnoy, Antonovitch, des ingénieurs entre 1991 et 1997, nous sommes en ancien 97, nous sommes partis vers Saturne, nous sommes arrivés en 2004, nous devions terminer la mission en 2008, on a obtenu deux ans de sursis, on devait finir en 2010, nous en avons obtenu il y a trois mois un sursis supplémentaire, on finira en 2017. Et en ce qui me concerne, je suis financé par le Centre Spatial Français jusqu'à deux ans après la fin de la mission. Donc jusqu'en 2019, j'ai pas de problème. Donc je cherche un boulot pour 2020, si vous entendez parler de quelque chose. Je suis preneur. Donc vous voyez, c'est une génération, une telle chose. Alors, ensuite, je vous dirai quelque chose sur l'univers. Vous avez peut-être vu dans les journaux que l'univers a 13 milliards d'années. Il dit beaucoup de bêtises à ce sujet. On parle des expansions de l'univers, le Big Bang, j'en dirai quelques mots. C'est pas du tout le début de l'univers, c'est pas la création, contrairement à ce qui est dit dans les journaux, dans les bouquins. C'est autre chose. Donc je vous en dirai quelques mots. Les étoiles, on les voit se former. Donc comment ça se passe, j'allais t'en dire quelques mots. Et puis quelques nouvelles. Et puis là, je serai arrêté bien avant, de toute manière, parce qu'il sera 2h du matin et on se séparera. Donc vous voyez, je passe 10 minutes par diapo à peu près. Donc première diapo que je vous montre, vous reconnaissez Saturne, ses anneaux. Tout le monde connaît ça. À l'école maternelle, vous saviez que ça existe. Ça vous donne un sens de la troisième dimension. C'est beau. Mais on n'étudie pas cet objet parce que c'est beau. On l'étudie parce que c'est un véritable appart physique. Moi, quand j'étais petit, on est dans les 70, j'essayais d'aplatir des galaxies. J'y arrive plus ou moins bien. Puis je me suis dit, tiens, si j'essayais mon modèle pour les anneaux de Saturne. Je me suis passé 6 mois, j'ai pensé. Les 6 mois ont commencé en 1972, ils ne sont pas terminés. Et je me suis rendu compte que quelques collègues qui avaient bien réussi à leur carrière s'étaient attaqués à ce problème. Et finalement, ils ont fait autre chose. Ils s'appelaient Galilée, ils s'appelaient Laplace, ils s'appelaient Maxwell, ils s'appelaient Poincaré. Poincaré, c'est d'origine de la famille Henri, le mathématicien. Pas le cousin Germain Raymond qui était Premier ministre. Ces gens-là sont figurines des anneaux. Depuis 4 siècles, on y est, on n'a pas vraiment compris ce que c'était. J'ai pensé qu'en allant avec la sonde Cassini, on comprendrait. Je suis maintenant persuadé qu'il y en a pour 4 siècles supplémentaires. Donc, dans 4 siècles, c'est peut-être pas moi qui viendrai vous expliquer ce qu'on a trouvé. Alors, ces anneaux que vous voyez, c'est une planète qui a un disque de matière avec des particules qui cognent. Si on veut les connaître de la Terre, on les voit sous le même angle. Le Soleil est à côté, angulairement, le Soleil est à côté. Donc, on voit les anneaux, l'ombre des anneaux, l'ombre de la planète sur les anneaux, l'ombre des anneaux sur la planète, etc. Vous voyez que là, c'est un peu bleuté, c'est l'hiver. Donc l'ombre des anneaux recouvre la partie nord, et donc l'hiver est un peu plus rude qu'il ne serait sans les anneaux. Eh bien, on a envie de tourner autour, de regarder comment ça se passe. Un peu comme l'été, sur la plage, quand vous photographiez quelqu'un à contre-jour, en maillot de bain, vous avez les poils qui brillent. On va voir les poils de Saturne qui brillent, vous voyez. Voilà, à contre-jour, le soleil est derrière. Cette image était très difficile à obtenir, parce que si on pointe les caméras là, elles sont mortes, et on est à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Ces caméras sont mortes, il n'y a pas de garagiste pour réparer. Il faut donc ne pas pointer, pointer au bon moment et dépointer à ce moment-là. On prend cette photo et qu'est-ce qu'on voit? On voit toute la poussière autour de Saturne qui diffuse la lumière. Et qu'est-ce qu'on voit ici au bout de la flèche? On voit un petit point. Oh, c'est un satellite de Saturne. Pas du tout. Ce petit point n'est pas un satellite de Saturne. Ce petit point, c'est la Terre. Et le jour où on a pris la photo, hier était du bon côté, il faisait beau, donc vous êtes sur la photo. Hein? Donc j'ai voulu faire une photo de groupe. Hein, pour commencer, pour se souvenir de cet après-midi, vous êtes dessus. Ce qui fait que quand la police me demande des papiers d'identité, généralement je donne ça en disant j'y suis, en plus avec tous mes copains. Et pourquoi je vous montre cette photo? C'est pour vous dire qu'en gros, Saturne et la Terre, c'est pas pour faire une belle image. C'est qu'en fait, notre grand souci, c'est que la Terre, on voudrait la connaître un peu mieux. La Terre, on la pollue. La Terre, on est inquiet, est-ce que le climat va changer ou pas? La Terre, est-ce qu'on fait des bêtises ou pas? Si nous voulions connaître la Terre, eh bien, nous devrions faire comme le physicien dans son laboratoire ou le chimiste. C'est-à-dire, que fait un physicien chimiste? Eh bien, ils sont dans un labo, ils prennent un morceau de matière, ils chauffent, ils refroidissent, ils coupent en deux, ils secouent, ils bombardent, ils mettent un champ magnétique, et puis, puis après ça, ils font des lois de physique. Puis après, on vous embête les lois de physique au lycée, ceux qui répètent bien les lois, ils sont reçus avant les autres, et ils ont un meilleur salaire après, et on sera le système. Eh bien, la Terre, on devrait la couper en deux, la bombarder, etc. Heureusement pour nous, on ne sait pas faire. Mais ce n'est pas la peine. On va voir d'autres planètes, et parmi ces autres planètes, il y en a qui sont plus grosses, d'autres plus petites, il y en a qui sont plus chaudes, d'autres plus froides, il y en a qui sont plus denses, d'autres moins denses, etc. Et par comparaison, on comprend le rôle de chacun des facteurs, qui est la masse, la densité, la température, etc. Autrement dit, on a un exemple, au sud de Saturne, il y a quelques mois, on a découvert un cyclone, où les vents soufflent à 600 km/h sur la paroi. Eh bien, les gens qui sur Terre étudient les cyclones, qu'est-ce qu'ils font? Ils testent leur modèle dans ces conditions extrêmes, comme un industriel va tester ses modèles dans des conditions extrêmes sur Terre. Du coup, il va l'améliorer. Et en étudiant la météo, par exemple, ce qui se passe sur Saturne, on connaît mieux l'atmosphère terrestre par comparaison. Donc, finalement, naît une nouvelle discipline qui s'appelle la planétologie comparée. Si on veut connaître la Terre, c'est pas en restant le nez dans les paquettes, pour parler vulgairement, qu'on la connaît, c'est en prenant du recul. Ça, je conseille général dans la vie, quand vous avez un problème dans la vie, c'est pas en vous mettant le nez au ras du problème que vous le résolvez, c'est en prenant du recul. Enfin, prendre du recul, c'est faire de l'astronomie, bien entendu. Hein. Alors, maintenant, oui, ça c'est le poli pour l'examen, parce qu'il y a un examen après, bien entendu. Donc, je n'aurai pas le temps de tout vous raconter. Maudit Jacob, une femme charmante, et en tout cas, monsieur Lirnon, une femme charmante, m'a fait commettre ce genre d'ouvrage. Hein. Alors, voilà, cette photo marque un petit peu ce qui se passe en fin du XXe siècle, en début du XXIe siècle. C'est un de nos collègues qui était parti en week-end, mais pas très loin, vous voyez. Et donc, en gros, si l'homme est né sur Terre, la Terre est le berceau de l'humanité, mais un bébé n'est pas condamné à vivre tout le temps dans son berceau. Un bébé sort du berceau à un moment donné. Ben, nous avons la chance, en ce moment, de vivre une période où l'homme est en train de sortir de son berceau. Et en sortant de son berceau, ça a deux conséquences. La première, c'est qu'en allant au-delà de l'atmosphère, eh bien, on visite les planètes, j'en dirai quelques mots. Et la seconde, c'est que nous sommes en vie grâce à l'atmosphère. On respire l'atmosphère. Mais au-delà de la respiration, l'atmosphère nous protège de rayonnements nocifs. Sans atmosphère, les rayonnements ultraviolets, rayons X, rayons gamma, qui nous tueraient instantanément, ne passent pas. Et donc, nous sommes protégés par une espèce de voile qu'est l'atmosphère. Eh bien, en allant au-delà de l'atmosphère, nous recevons tous les rayonnements produits par les étoiles, les galaxies, les astres, que jusqu'à présent, nous ne connaissions pas. Autrement dit, on a retiré le voile de l'atmosphère, nous, astronomes, et chacun sait que dans la vie, quand on retire un voile, on fait un progrès. Hein. Alors, pour observer le ciel, les rayonnements, vous avez les rayons gamma, les rayons X, l'infrarouge. Imaginez qu'à la naissance, on vous ait mis des lunettes vertes, et que vous n'ayez vu à la naissance que le vert. Ben, vous auriez vu les feuilles des arbres, vous n'auriez pas vu les troncs. Vous auriez vu les voitures vertes dans la rue, pas les autres. Dangereux si vous traversez la rue. Vous auriez vu les gens habillés en vert, pas les autres. Et là, j'ai 12 ans, vous auriez dit, mon petit, t'es grand, alors on va te retirer tes lunettes. Et là, vous auriez vu que autour de vous, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du marron, et vous auriez vu un univers complètement différent. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Jusqu'à ces dernières années, nous ne voyions que la lumière visible. Depuis quelques années, nous voyons tout le rayonnement que les astres nous envoient, qui donne un ciel complètement différent. Partez vous promener le soir, regardez le ciel. Ça a l'air tous les soirs pareil. Ça vous donne une impression de sérénité, de calme. Si Aristote, qui vivait il y a 2300 ans, revenait ce soir, vous regarderez et dirait, ça n'a pas bougé depuis mon temps. J'avais raison de dire que la Terre est immobile au centre de l'univers, ça n'a pas bougé. Je dirais, mon petit, t'es un grand impatient. Attends 50 000 ans, tu verras, ça bougera. Mais en gros, ça bouge très lentement. Alors que si vos yeux, vous voyez les rayonnements, rayons gamma, rayons X, etc., eh bien, vous verrez un univers qui est changeant, qui est bouillonnant. C'est tous les soirs le 14 juillet, ça part de tous les côtés, pam, etc. Et vous auriez évidemment une idée complètement différente du monde. Alors maintenant, je vous parle des grandes questions philosophiques, place de l'homme dans l'univers. Alors j'emploie quatre mots ici, le temps, l'espace, la matière et la vie. Tout le monde connaît ces mots-là. Dans la rue, par exemple, même à des bébés, enfin des petits enfants, ils savent. Maintenant, si je vous demande, définissez-moi le temps, définissez-moi l'espace, définissez-moi la matière, et la vie. Là, je crains, moi, je n'y arrive pas. Le temps, qu'est-ce que c'est? Beuh. J'ai un collègue à Saclay qui me dit, tu sais André, le temps n'existe pas. Alors, bon, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais le temps, nous en discutons beaucoup, nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Moi, je vous dis, l'espace n'existe pas. Ce que nous appelons, nous, espace, c'est le comportement au visage de la matière. Nous sommes sur Terre, enfin, notre comportement au-dessus de la Terre, le haut, le bas, la gauche, la droite, permet de vivre tout simplement. Donc on appelle ça l'espace, mais en soi l'espace n'existe pas. C'est idiot de dire l'univers, est-ce qu'il est fini, d'infini, comme si l'univers était dans une pièce, avec un haut, un bas, une gauche, une droite. Il n'y a pas, l'univers n'est pas dans un espace. L'univers existe, il y a de la matière, et le voisinage de la matière, on l'appelle espace. Mais il n'y a pas un espace absolu dans lequel on s'est plongé. La matière, qu'est-ce que c'est? Alors mes collègues physiciens ont un modèle, qui s'appelle modèle standard. Ce modèle a 24 particules, il est très compliqué. Moi je ne suis pas physicien des particules, mais il me paraît un peu trop compliqué. Nous, astronomes, nous avions un modèle qui s'appelle le modèle Ptolémée, dans lequel on mettait la Terre au centre et une série d'épicycles expliquaient également des planètes. Ce modèle a tenu 1500 ans. Si vous voulez savoir où sera Jupiter le 14, pas une description de la réalité, le modèle est un outil. Donc je dis à mes collègues de physique particule, bon, nous on a attendu 1500 ans pour montrer que ce modèle ne marchait pas, attendons 1500 ans pour voir si votre modèle standard, comme ils l'appellent, marche ou non, et on vous donnera les crédits et les postes à ce moment-là. Bon, ça fait partie des petites rivalités que nous avons au sein de l'université entre les différentes disciplines. Alors, la matière, qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'en Suisse, il y a un accélérateur de particules qui, les particules le font des tours sans arrêt, ils franchissent la frontière franco-suisse sans arrêt, sans jamais voir un douanier, et on espère trouver la particule manquante, le fameux boson de Higgs. Au mois de juillet, on nous a dit, ça y est, on l'a presque trouvé. Il y a 15 jours, on nous a dit, non, finalement, on ne l'a pas trouvé. Alors, on continue, on verra ce que ça donne. En tout cas, la matière, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Quant à la vie, la seule fois où des scientifiques ont essayé de détecter une vie extraterrestre sur Mars, dans la... on a obtenu un signal, on sait maintenant que ce signal est un signal chimique et pas un signal biologique. Qu'est-ce que c'est que la vie? En tout cas, si la vie extraterrestre existe, et à cette question je réponds, je ne sais pas, eh bien, si elle existe pas trop loin de nous, pas trop loin c'est quoi, quelques dizaines d'années-lumière, nous devrions le savoir au XXIe siècle. Nous serons la génération qui trouvera cela. J'en dirai peut-être quelques mots un petit peu plus tard, mais moi je suis persuadé que l'on trouvera. On appelle vie ce qu'on voit sur Terre. Mais quand on voit qu'au fond des océans, il n'y a pas de lumière solaire, il existe ce qu'on appelle des extrémophiles, des formes de vie. Quand on voit que dans les déserts ou dans l'Arctique, il existe des formes de vie vraiment extrêmes, on peut s'attendre dans l'univers à trouver des choses étonnantes. Alors on verra, hein, si on trouve pas. En tout cas, ça peut être inquiétant, puisqu'à chaque fois qu'une civilisation en a inventé une autre, la plus faible, entre guillemets, a été détruite. Demandez aux habitants de l'île de Pâques, aux Indiens d'Amérique ou aux aborigènes d'Australie ce qu'ils sont devenus quand l'homme blanc a débarqué. Donc, les grandes questions, vous avez compris, j'ai pas la réponse, on n'a pas la réponse, mais on ne peut pas y répondre sans un minimum de connaissances en astro. Alors, maintenant, oui, un petit clin d'œil. Regardez 1901. En 1901, on ne savait pas ce que c'était une planète, on l'a déjà vu. En 1901, on ne savait pas pourquoi les étoiles brillaient. En 1901, on ignorait l'existence des galaxies. En 2011, nous avons visité toutes les planètes du système solaire. Nous savons pourquoi les étoiles brillent, depuis 1945, grâce à quatre personnes, Albert Einstein, Hans Bethe, Arthur Eddington et Jean Perrin, le français de la bande, qui était prix Nobel en 1920 et ministre de la Recherche en 1936. C'était l'époque où on nommait ministre de la Recherche quelqu'un qui était un peu au courant du sujet. Hein, bon, et puis les galaxies, ben, on les connaît bien maintenant, comment dirais-je, depuis les années 80-90, on connaît bien. On a fait pas mal de progrès. Et ceci est dû à trois révolutions essentielles. Les trois révolutions, c'est la Grèce antique, la Renaissance scientifique et aujourd'hui. Nous vivons la troisième révolution. Qu'est-ce qui se passe dans la Grèce antique? Les Grecs héritent des Mésopotamiens, des Égyptiens, des Sumériens, des civilisations avant eux, et ils inventent, entre guillemets, le raisonnement rationnel. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement rationnel? C'est que toute cause a un effet, tout effet a une cause. Mais ils oublient une chose, c'est qu'ils oublient d'observer le monde. Et si Platon était là parmi vous, j'ai envie de m'engueuler, parce que Platon disait, c'est pas la peine d'observer le monde, parce que ce que je vois n'est qu'une illusion, n'est qu'une apparence. Et puis si je regarde le ciel, les dieux du ciel sont imparfaits, donc je verrai des imperfections. Et donc il pensait que sa pensée pure l'emportait. Et ça, c'est la source, je dirais, de tous les massacres de l'humanité. Je pense à l'inquisition des chrétiens, au fondamentalisme musulman, au camp nazi, au camp sibérien. Des gens ont une idée, ils ne la confrontent pas à la réalité, et ils massacrent leurs semblables sous prétexte ici de les rendre plus heureux. Donc ça, la raisonnement rationnel tout seul, c'est dangereux. Le Moyen-Âge arrive, et je vois les choses un peu différemment, et la science scientifique, finalement, établit les deux piliers sur lesquels repose la science, à savoir, qu'est-ce que c'est que la science? Eh bien, d'une part, on a la théorie, on interprète, on théorise, et d'autre part, on observe, on expérimente. Si vous êtes physicien, vous expérimentez dans votre laboratoire, si vous êtes astronome ou géophysicien, vous observez. On ne peut pas couper le soleil en deux, tordre la galaxie, évidemment, on ne peut qu'observer. Et l'aller-retour permanent entre observation et théorie, c'est ça la science. Alors, chaque fois que vous mettez une théorie, elle n'a aucune valeur si vous ne la testez pas par l'observation, et chaque fois que vous observez, ça n'a aucun intérêt si vous ne l'interprétez pas. Et donc, c'est cette étape, Grèce antique, la Renaissance scientifique autour de Copernic, Tycho Brahe, Kepler, comment dirais-je, Newton, Galilée, etc., autour de ces personnes, mais il n'y avait pas que, évidemment, en un siècle, a fondé la démarche scientifique. Et si nous, en Europe, on était un tout petit peu en avance sur les Chinois, les Indiens, etc., les Arabes, que sais-je, c'est pas qu'on est plus intelligent, c'est simplement qu'on a bénéficié des conséquences de cette invention de la Renaissance qui ont donné 18e siècle, 19e siècle au monde industriel. On est en train de l'avance qu'on avait en train de la perdre, parce que bon, on discute, mais on n'avance pas. Simplement, il faut comprendre que dans l'histoire de l'humanité, c'était essentiel. Aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, on va au-delà de l'atmosphère, ça change tout. Et regardez ces deux images que j'ai mises ici. Là, vous avez la statue de Giordano Bruno, qui a été brûlée vif en place de Rome, le 17 février 1600, parce qu'il avait dit que les étoiles étaient des soleils lointains, parce qu'il avait dit qu'il devait y avoir des planètes autour, parce qu'il avait dit qu'elles devaient être habitées, toutes choses qu'on enseigne tous les jours. Bon, il avait aussi dit que Marie n'était pas vierge, ça n'avait pas plu. Et donc on l'a brûlé. Moi, on m'aurait brûlé, j'ai dit, attends, les gars, on discute. Non, on l'a brûlé. Et je vous montre cette statue en place de Rome, pas très loin de l'ambassade de France. Je vous recommande parce qu'il y a un petit marché en bas, sur la place où la mozzarella est excellente. Et 9 ans plus tard, c'est la fameuse lunette de Galilée. Et Galilée, au mois de juillet 1610, eh bien, fait une somme de découvertes comme on n'a jamais fait autant. Il trouve des taches sur le soleil, boum, ça fait pas propre. Il trouve des cratères sur la lune, bah. Il trouve des amas d'étoiles, il trouve des anneaux d'eau de Saturne, il trouve plein de choses. Et 9 ans séparent ces deux moments où là, c'est le symbole de l'obscurantisme, et là, c'est le symbole de la Renaissance scientifique. Alors maintenant, pourquoi on fait de l'astronomie? Comment on en fait? Alors pourquoi l'astronomie est la plus ancienne des sciences? Je dis toujours, quand on me demande quel métier j'exerce, je dis que j'exerce le plus vieux métier du monde. C'est nous, pas d'autres, contrairement à ce qu'on croit. L'astronomie est la plus ancienne des sciences. Pourquoi c'est la plus ancienne? Pour deux raisons. L'homme était chasseur, chasseur-cueilleur, puis était fatigué de courir après les animaux, il devenait agriculteur. Et quand vous êtes agriculteur, vous avez un calendrier. Et pour avoir un calendrier, vous avez trois mouvements. La Terre sur elle-même, c'est le jour. La Lune autour de la Terre, c'est le mois. La Terre autour du Soleil, c'est l'année. Problème. C'est qu'il n'y a pas un nombre entier de jours dans un mois et qu'il n'y a pas un nombre entier de mois dans une année. Alors le calendrier, on a mis 4000 ans pour le faire. Sous la République romaine, on prélevait les impôts à la fin du mois. Et comme la République manquait d'argent, ça c'est une contrainte républicaine, hein, on avançait à la fin du mois. Donc on faisait, non, là, pas, que c'était compliqué. Donc 4000 ans pour le faire. Ensuite, l'autre raison était métaphysique. Les gens disaient, dans le ciel, il y a des dieux. Alors, si on regardait ce qu'ils font, peut-être qu'on va apprendre des choses. Et il y a une légende coréenne, si mes souvenirs sont bons, qui vous dit qu'entre le monde des humains et le monde des dieux, dans ce rideau, il y a des trous. Regardons à travers les trous ce qu'ils font. Et les trous dans le rideau, c'est les étoiles. Et c'est poétique. Et donc, en gros, l'idée de regarder le ciel pour apprendre des choses. Donc ça, c'est la raison pour laquelle l'astronomie est la plus ancienne des sciences. Maintenant, la raison pour laquelle on fait de l'astronomie en particulier, mais de la science en général, et pour moi, ces trois raisons sont essentielles, c'est la culture, la connaissance et l'économie. Moi, pourquoi je fais ça? Parce que ça m'amuse. Enfin, il n'y a pas de raison de me payer à la fin du mois parce que je m'amuse. Mais en fait, je crois que la chose la plus importante, c'est la culture. Et la culture, quand on prononce le mot culture, souvent, les gens pensent à la poésie, à la musique, à la sculpture, à la peinture, ils ont raison. Mais on oublie la culture scientifique. Et non pas la science en tant que progrès des connaissances, en tant que technologie, mais en tant que scientifique. Et c'est quand même dommage à l'époque où le citoyen doit voter pour des choses sur la pollution, que sais-je, etc., qui ait aussi peu de connaissances. Donc je me bats pour essayer qu'on en parle un peu plus. Je veux dire, les journaux n'en parlent pas. À la télévision, payée par le contribuable, on vous met deux jumeaux qui sont deux escrocs, parce qu'ils sont copains avec un mannequin qui a épousé un président de la République. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc la culture, ça me paraît essentiel, parce que on dit toujours, quand on parle des problèmes de violence en particulier, eh bien, chacun sait que la violence n'est pas la fille de la pauvreté. La violence est la fille de l'inculture. Et donc là, je crois que la manière de lutter contre ça, c'est de cultiver les gens. Ça me paraît essentiel et la culture scientifique en fait partie. Pour montrer combien les choses sont irrationnelles, l'autre jour, je suis voir un ami qui a un cancer. À l'hôpital, je vais dans l'hôpital, je le vois, puis je regarde autour, je discute avec les médecins. Et comment on soigne un cancer? On vous met des rayons gamma qui vous tuent les cellules cancéreuses. Le problème, c'est que ça tue les cellules saines, donc il faut bien doser. Alors je vois un médecin, mais je dis, attendez, je ne vois pas dans votre service de cancérologie, je ne vois pas le mot radioactif, ni le mot nucléaire. Ah oui, oui monsieur, on l'a retiré, ça a effrayé les patients. J'ai attendez, moi, si je viens me faire soigner, et ne me faites pas la radioactivité, si vous êtes des charlots, vous faites ça par imposition de main. Et donc, vous voyez, l'irrationnel. Les gens ont peur du mot nucléaire. Alors que nous sommes nucléaires, nous sommes faits de noyaux, évidemment. Que sans la radioactivité, on serait mort. La vie n'existerait pas sur Terre. Et donc, je m'amuse souvent à dire aux gens, quand ils ont peur du nucléaire, j'ai remplacé le mot nucléaire par le mot eau. L'eau, c'est épouvantable. L'eau, on peut se noyer. On peut y avoir un tsunami. On peut mourir avec l'eau. Donc, solution, éradiquons l'eau à la surface de la Terre. Vous comprenez, le problème, c'est pas l'eau, pas le nucléaire, le problème, c'est l'excès. Pas assez de radioactivité, on meurt, mais trop de radioactivité, on meurt. Pas assez d'eau, on meurt, trop d'eau, on meurt. Vous voulez dire, c'est une question de langage? Pas tout à fait. C'est une question de méconnaissance, où on croit quelque chose est magique, alors on est contre. Simplement, c'est la mesure, en quelque sorte, et le langage, ça, je crois que c'est important. Alors maintenant, l'autre point, c'est la connaissance. Enrico Fermi a dit, beaucoup mieux que moi, que le futur de la physique est dans l'astrophysique. Pourquoi? Parce qu'il existe dans l'univers des conditions de pression, de température, de densité extrêmes, extrêmes vers le haut, extrêmes vers le bas, qu'on ne peut pas reproduire sur Terre. Essayez donc de construire un trou noir dans un labo, avant même d'avoir l'arrêté qui nomme le directeur, il y a longtemps que le labo a explosé. Donc on a des conditions physiques et chimiques qui règnent dans l'univers qu'on ne peut pas atteindre sur Terre. Donc, dans l'univers, on explore pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et enfin, l'industrie et l'économie. Quand je vous ai dit qu'on a dépensé 4 milliards d'euros pour aller voir Saturne, ce n'est pas pour prendre des belles photos. C'est que chaque pays se dit, pour construire la sonde, qu'est-ce qu'on fait? On demande à un industriel, construis-moi un composant de la sonde. Et on lui dit, tu n'as pas le droit de te tromper. Je veux une fiabilité à toute épreuve. S'il y a une soudure qui lâche autour de Saturne, il n'y a pas de garagiste sur place, la mission est perdue. Donc l'industriel reçoit des dizaines ou des centaines de millions d'euros pour avoir la technique la meilleure du monde. Évidemment, c'est lui qui fait le meilleur produit. Évidemment, il vend son produit. Évidemment, ça lutte contre le chômage. Donc une activité qui lutte contre la violence, contre le chômage et pour la connaissance, je pense que ce n'est pas totalement inutile. Et à faire de l'astronomie, nous sommes 10 000 dans le monde actuellement, nous sommes professionnels, et dans un pays industriel avancé, il y a un astronome pour 100 000 habitants. En France, il y a 60 millions d'habitants, on est 600. En Angleterre, pareil. En Belgique, ils sont 10 millions, ils sont 100. En Suisse, ils sont 5 millions, ils sont 50. Aux États-Unis, ils sont 200 millions, ils sont 2 000. En Côte d'Ivoire, Madagascar, ils sont moins nombreux. En gros, voilà ce qu'on est. Comprenez donc bien que si on n'est pas content d'une décision gouvernementale, on n'est pas assez nombreux pour barrer l'avenue des Champs-Élysées dans une manif. Donc voilà, alors j'espère avoir justifié ceci. Donc voyez, la suite, oui, autre vous avez tous reconnu ici Delphes. Delphes, c'est, vous savez, le temple en Grèce où on allait voir l'oracle. Et on allait voir l'oracle, qu'est-ce qui se passait? On y arrivait, il y avait des jeunes filles avec des grandes robes. On rentrait, on disait alors, explique-moi le monde, dis-moi comment ça se passe. Et l'oracle répondait, aïe. On sortait, on disait, l'oracle m'a dit que. Et il y avait autour un commerce florissant, oui, c'est une technique encore utilisée de nos jours d'ailleurs. Et donc tout le monde sait que les jeunes filles en question étaient à un endroit où il y avait une source un peu polluante. Elles avaient donc, en parlant vulgairement, fumé la moquette et disaient n'importe quoi. Donc voilà ce qu'on faisait. Et là, dans le ciel, un de nos collègues en Grèce a photographié le soleil tous les matins à 6h du matin. Et il y a des jours où il y a des nuages. Et voici la trajectoire apparente du soleil dans le ciel, tous les matins à 6h du matin. Et vous comprenez donc qu'il y a deux manières de voir le monde. Soit on s'adresse à l'oracle, soit on essaie de comprendre. Et je ne parlerai aujourd'hui dans cette conférence que de la partie supérieure de la diapo et pas de la partie inférieure. Bon, vous avez compris un petit peu de géométrie tout simple. Enfin, en classe de troisième, on a compris ça. Bon, c'est facile, vous verrez ça avec votre prof en géométrie. Je ne fais pas l'injure de vous donner le détail du mouvement du soleil. Alors, la question quand même que je me pose est la suivante. Nous avons, nous scientifiques, l'ambition de comprendre le monde. Alors, le problème que je pose, est-ce que nous sommes capables de comprendre le monde? Je veux dire, par là, notre seul outil, c'est notre cerveau. Alors, notre cerveau, vous savez qu'il est fait en trois couches, le cerveau primitif, le secondaire, le tertiaire tout petit, et ça, de l'évolution. À quoi il sert, le cerveau? À la survie. En gros, on échappe aux prédateurs, on mange à sa faim et on se reproduit. Et en gros, notre cerveau sert à trois fonctions de base. On voit un tigre, on part en courant. On voit un lapin, on essaie de l'attraper. Quand un monsieur voit une dame, il court après. Quand une dame voit un monsieur, ça arrange pas qu'il court après. Voilà, on a ces trois fonctions de base. Eh bien, croyez-vous qu'avec ces trois fonctions de base, je puisse connaître l'univers? C'est ambitieux. Autre part, je prends un chien, un chat, une girafe, un hippopotame, un bonobo, un singe. Ces animaux sont trop proches de nous. Quand vous regardez le code génétique des animaux, ce qu'ils ont, ils ont 90%, 90% de commun avec nous. Est-ce que nous sommes persuadés que notre chien, notre chat ou le singe ne comprend pas Einstein? Donc est-ce que nous, avec ce petit pourcent qu'on aurait en plus, on comprendrait tout et eux, ils ne comprendraient rien? Donc à la question, est-ce que je peux comprendre le monde? Ma réponse est, très claire, je ne sais pas. Et puisque je ne sais pas, j'essaye. Et quand j'essaye, ça ne marche pas si mal, alors je continue. Donc voilà. Mais attention, gardez l'humilité, gardez le doute. Ne dites pas, j'ai la vérité, j'ai tout compris. Non, non. On essaye avec un outil pas forcément adapté à la question. Alors vous avez compris, croyance ou apport rationnel, bon, je ne vais pas en faire des tonnes. Oui, il y a deux mots ici que j'ai écrit ici, le vrai et le faux. Sachez qu'un scientifique ne dit jamais la vérité. Mais un scientifique peut vous dire ce qui est faux. Si vous me demandez comment s'est formé le système solaire, comment évoluent les étoiles, quel est le futur de l'univers, je peux vous dire comment ne s'est pas formé le système solaire, comment n'évoluent pas les étoiles et quel n'est pas le futur de l'univers. Autrement dit, je vous ai expliqué que les deux piliers de l'observation et de la théorie, j'observe, j'en tire une théorie, du coup ça me donne l'idée d'une autre expérience que j'essaye, si ça marche, ben je réconforte ma théorie, ça ne marche pas, il faut en trouver une autre. Autrement dit, cet aller-retour permanent fait que ce que je vous explique sur l'astronomie, c'est l'état de nos connaissances aujourd'hui. Mais je serais bien, comment dirais-je, pédant si je vais dire que, voilà, on connaît tout, on a tout compris. Qu'est-ce qui me dit que quand on retournera au lycée, ici, en 2500, dans 500 ou 1000 ans, on ne sourira pas de ce qu'on annonçait à l'époque, comme nous sourions de ce qu'on disait il y a 1000 ans ou 500 ans sur le monde. Donc, gardez cette humilité. Je crois que le doute et l'humilité, c'est important. L'évolution, bien entendu, c'est le nerf de tout ça. Le philosophe qui disait l'évolution est le propre de l'homme s'est trompé. L'évolution n'est pas le propre de l'homme, mais les planètes, les étoiles, les galaxies évoluent, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Alors, rapidement, oui, alors ça c'est une photo que je trouve épouvantable. C'est une mosaïque de photographies de la Terre prise par satellite, reconstituée quand il n'y a pas de nuages. Et vous voyez l'Amérique, l'Europe, l'Inde, la Chine, le Japon. Eh bien, la pollution lumineuse est tellement importante que les gens ne voient plus le ciel. Et qu'actuellement, 50% de l'humanité ne voit plus la Voie lactée. C'est une perte de culture énorme, ce qui fait que moi, à chaque élection municipale, j'interviens en disant que je voterai pour le maire qui supprimera la classe publique. On verra enfin la voûte céleste, objet de culture. Je suis peu écouté. Et en tout cas, je vous recommande d'aller... J'ai été voir une éclipse de soleil au nord du Ténéré, c'est-à-dire à un endroit où il n'y a pas grand monde, un petit peu dangereux maintenant, mais bon, c'était en 2006. Et pour la première fois de ma vie, j'ai couché à Belle Étoile. Bon, on était à 450 km de toute habitation. Et nous observons souvent au Chili, nous observons à Hawaï, nous observons en Australie, où nous avons nos observatoires, mais il y a toujours une lumière. Lumière du restaurant, la sortie de secours du télescope, des choses comme ça. Et là, à 450 km de toute habitation, il y en a qui viennent encore à la conférence, eh bien, il y avait, comment dirais-je, aucune lumière. Alors, moi, j'ai l'habitude d'un certain confort à mon âge, vous savez, on se déplace plus difficilement, et donc, quand je prends un hôtel avec beaucoup d'étoiles, hein, parce que je suis astronome, c'est normal. Hein. Donc, mais il n'y a pas d'hôtel étoilé à cet endroit-là. On m'a fait acheter une tente, j'avais jamais fait de ma vie, alors je ne l'ai pas utilisée, et donc j'ai dormi à la belle étoile. Et quand la nuit est arrivée, il n'y avait pas de lune, je ne voyais plus le sol, aucune lumière, évidemment. Et donc, je ne voyais plus que le ciel. Je flottais dans l'espace. C'est tellement beau que je ne vais pas dormir, je me suis dit. 5 minutes après, je dormais. Quand je me réveille dans la nuit, pas besoin de regarder ma montre, la voie lactée avait tourné. Je savais si c'était au milieu de la nuit ou au petit matin. Autrement dit, j'ai compris ce jour-là ce qu'étaient les pensées des anciens, des Grecs, des Mésopotamiens, etc., qui étaient dans le ciel, qui voyaient le ciel, que nous ne voyons plus. Autrement dit, le conseil que je vous donne, allez quelque part où il n'y a pas une bougie à 450 km, donc ce n'est pas forcément aux environs de Marseille, de Toulon ou de Paris que je recommande, soit en pleine mer, soit dans des paysages complètement désertiques. Je vous assure que c'est une émotion incroyable. Ça change complètement la vision qu'on a du monde. Donc c'est un point important. Oui, ça, bon, ça c'est un petit clin d'œil. Ces deux dames dans l'Égypte ancienne, il y en a une qui dit à l'autre, regarde, quelle est belle la lune. L'autre qui dit, je te parie qu'un jour les hommes iront. L'autre dit, tu crois? Et elle dit, hé, pendant ce temps-là, on prendra le pouvoir. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. En fin de XXe siècle, les hommes sont allés dans la lune et les femmes ont enfin la place qu'elles méritent dans la société. Il n'y a qu'à voir dans les pays, comment dirais-je, où les femmes sont, on fait pas de science, et ben les femmes sont maltraitées. Hein. Donc là aussi, la culture, ça avec le reste. Hein. Oui, si on vous met un voile sur la tête, on ne voit pas le ciel, c'est évident. Donc il faut. Enfin, oui. Vous avez compris. Bon, alors, maintenant, nous voulons comprendre le ciel, le monde. Donc, Bastien Dessin de Flammarion, 1882. Qu'est-ce qu'il y a au-delà des étoiles? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, je raconte deux petites blagues, c'est pour me rappeler, vous les racontez, vous les connaissez probablement. Vous connaissez l'histoire des pygmées aveugles, l'histoire des puces savantes. Je ne sais pas. Ben, je vous la raconte. Les pygmées aveugles, c'est des pygmées. Ils sont aveugles. Mais ils veulent connaître le monde. Alors, ils quittent leur village et ils partent explorer le monde. Ils sont aveugles. Donc, ils tâtonnent. Et il rencontre un éléphant. Donc chaque pygmée touche l'éléphant. Il y en a un qui touche les pattes de l'éléphant, l'autre qui touche l'oreille de l'éléphant, qui touche la queue de l'éléphant, l'autre le ventre de l'éléphant, l'autre les trompes de l'éléphant, l'autre les défenses, etc. Il retourne au village et chacun raconte ce qu'il a vu, chacun décrit le même animal et chacun une histoire différente. Ils ont vu la même chose, mais ils n'ont pas la vue d'ensemble. Donc attention, quand on voit quelque chose, on n'a pas forcément compris tout ce qu'on a vu. L'histoire des puces savantes, vous connaissez, c'est un savant fou. Il est fou, il va dans un cirque. Il dit au directeur du cirque, donne-moi une puce. Alors, le directeur, il donne une puce. Et il dit à la puce, saute. La puce saute. Il coupe une patte de la puce. Il est fou, hein. Il dit à la puce, saute. Elle saute. Il coupe une deuxième patte de la puce. Saute. Elle saute. Il coupe la troisième patte de la puce. Saute. Elle saute. Il coupe la dernière patte de la puce. Saute. Elle saute plus. Et donc, le savant en déduit que chez les puces, les oreilles sont au bout des pattes. Donc, ça veut dire quand vous voyez quelque chose, attention à l'interprétation. Hein. Il faut quand vous interprétez, essayer de comprendre. Alors, ceci c'est... Alors vous avez ici le schéma du télescope de Hubble. Vous savez que c'est un télescope spatial de 2,40 m de diamètre. Il va être arrêté. Hein, il commence à être un peu âgé maintenant. Il va être remplacé par un télescope de 6 m de diamètre, qui s'appelle James Webb Telescope. Et dans notre laboratoire, voici le schéma du télescope dans l'espace. Nous avons construit un des détecteurs. Donc à Saclay, nous avons construit le détecteur infrarouge. On l'a livré dernièrement, qui va être placé sur ce télescope, qui devait être lancé en 2014. Il manquait 2 milliards et demi exactement de dollars de crédit, donc on a retardé le lancement. Les Républicains n'en voulaient pas, mais Obama était pour. Heureusement que c'est lui qui est au pouvoir et pas Bush. Oui, Bush, il prétendait être mauvais à l'école, mais il n'y a pas qu'à l'école qui était mauvais. Et donc Obama a donné le feu vert, donc ça sera construit, ça sera lancé, et donc ça marchera. Oui, je vous montre cette photo parce que c'est pour montrer que chez nous, au labo, ce ne sont pas les femmes qui portent la burqa, mais les hommes. Hein. C'est le... Alors maintenant, à comprendre ce que c'est que la lumière. Alors quelques mots sur la lumière. La lumière, dans l'Antiquité, certains ont cru que la lumière était un rayon que nous émettions. Il reste en français le reste de ça, on dit de quelqu'un qui a le mauvais œil. C'est un reste de cette idée que la lumière est un truc qu'on émet, qui se réfléchit. Quand vous avez la photo de ce chien, le chien se réfléchit sur la plage, a une ombre et on le voit directement. Si on émettait un rayon, on n'aurait pas l'ombre et la réflexion. Donc la lumière n'est pas un rayon que nous émettons, mais la lumière, à cause des ondes, des réflexions, de la douleur d'une lumière intense, des paupières fermées, c'est un rayon qui arrive de l'extérieur. Regardez, c'est dans un sous-bois, vous voyez bien un rayon qui va tout droit. Alors maintenant, est-ce que la lumière est une onde ou une particule? Alors, Newton pensait que c'était une particule, Huygens pensait que c'était une onde, et le débat a continué pendant des siècles, Et vous avez d'une part la lumière, comment dirais-je, souvent du corpuscule, a été quantifiée avec la mécanique quantique au début du XXe siècle, et d'autre part, quand la lumière se déplace, ça fait une onde, et si vous lancez deux cailloux dans l'eau, les ondes peuvent interférer, et la somme de deux lumières peut donner l'obscurité. Et donc, du coup, on a dit que la lumière avait une dualité, onde-particule. Ça veut dire qu'on ne comprend pas à fond ce que c'est vraiment. Mais on va essayer de l'utiliser quand même. Donc, c'est le seul outil qu'on a en astronomie. Voici deux tableaux du Moyen-Âge, 1352 et 1436. Et vous voyez sur ce tableau, les gens ont des lunettes. Autrement dit, au Moyen-Âge, les hommes avaient compris, même avant, que si vous preniez un morceau de silice, si vous le polissez, ça vous fait une lentille. Et qu'en mettant la lentille, on y voit mieux. Or, les gens qui ont la vue basse, c'est en général les gens âgés. Et les gens âgés sont un peu plus riches que les gens jeunes. Donc les artisans se sont dit, tiens, si on polissait des trucs, on va le vendre à des gens qui ont un peu d'argent, on va gagner de l'argent. Et donc, pendant des siècles, au Moyen-Âge, il y a des gens qui fabriquaient des lentilles. Il y a des bouquins qui existent, qui étaient l'état de l'art à l'époque, autour du Moyen-Âge. Et puis, en fin de XVIe siècle, comment dirais-je, il y en a qui se sont rendus compte, en mettant deux lentilles bout à bout, on peut faire soit un microscope, soit une lunette. Et c'est la fameuse lunette astronomique, qui au début était un instrument militaire, c'est-à-dire c'était couvert du secret militaire, et Galilée, qui est un homme plus intelligent, il s'est dit, c'est quand même idiot, avec la lunette, il regarde les gars sur la colline d'en face, c'est pas intéressant, ils sont tous habillés pareil. Hein. Il a regardé le ciel, et il a fait une moisson de découvertes extraordinaire. C'est le basculement dont je vous ai déjà parlé. Donc cette lumière, comment on la produit? Vous savez tous comment on fait la lumière. Vous savez que la couleur vous donne une idée sur la température. Moi, quand j'étais petit, on chauffait chez moi au charbon. Donc j'avais 2-3 ans, j'avais compris quand le charbon était noir, j'y mettais mes mains dessus, et j'en mettais plein sur les murs de la maison. Ça énervait beaucoup ma maman, mais moi ça m'amusait beaucoup. Hein. Et puis, par contre, quand le charbon était rouge, j'y mettais pas la main, parce qu'on se brûlait. Donc un enfant de 3 ans a compris à la couleur ce qui est chaud, ce qui n'est pas chaud. Enfin, celui qui n'a pas compris, ça s'appelle la sélection naturelle. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein, c'est et donc, la couleur dans le tableau, vous avez une coulée de lave ici, la coulée de lave est chaude, là c'est froid, vous n'avez pas envie de mettre le pied sur la coulée de lave, vous mettez le pied sur la roche à côté. Produire de la lumière, des molécules qui tournent, qui vibrent, etc. On sait comment produire la lumière, il y a de nombreux processus. La chaleur, les atomes excités, des molécules, des chars, etc. Alors on sait la produire. Maintenant, quelles sont ses limites? L'Observatoire de Paris, en 1676, à l'époque où l'Observatoire était à la campagne, alors que maintenant il est en plein milieu de Paris, simplement la liste est étendue, un nommé Romer, en 1676, c'est l'époque où Louis XIV avait dit « Je voudrais développer les sciences et les arts ». Louis XIV a dit à Colbert « Tu me prends les meilleurs en Europe hein. ». Il a fait comme on recrute les joueurs de football, les chanteurs d'opéra, vous voyez. On les paie très cher, on les prend les meilleurs. Alors il dit à Colbert, tu les prends, tu leur demandes combien ils veulent gagner, tu multiplies par 3 et tu les recrutes. Bon, actuellement, le recrutement à l'université est un peu différent de technique, hein, mais c'est une autre histoire. Dans cette affaire, Romer remarque que quand vous regardez de la Terre les satellites de Jupiter, eh bien, selon l'endroit où est la Terre, les satellites sont en retard ou en avance. Il trouve qu'il y a 22 minutes d'écart entre le moment où vous regardez les satellites vus de la Terre quand elle est au plus près de Jupiter et vue au plus loin quand elle est de l'autre côté du Soleil. Il en déduit donc que 22 minutes représentent le temps que met la lumière pour franchir un diamètre terrestre. Et il trouve que la lumière se déplace à 230 000 km/s, chiffre qui est faux. L'expérience de l'époque était grossière. Et nous savons maintenant que la lumière se déplace à pratiquement 300 000 km/s. Alors, on s'est longtemps posé la question, est-ce que la lumière est instantanée? Ou est-ce qu'au contraire, elle est à vitesse finie? Alors Galilée essayait avec des feux de bois, des sabliers, des draps sur les collines de Florence, à bouger les draps, le gag de sablier, bon, il pariait avec cette technique. Romer, lui, a la réponse. Et ça a des conséquences énormes. Le fait que la lumière soit à vitesse finie veut dire que dans l'univers, il n'existe pas de simultanéité. Quand vous voyez un événement, il appartient déjà au passé. On ne voit pas les choses en même temps. Autrement dit, la conséquence, c'est que voir loin, c'est voir dans le passé. C'est sur Alpha du Centaure, vous pensez que Kadhafi a reçu une grande pompe à Paris. Si vous êtes sur Sirius, vous pensez que Chirac vient d'être réélu. Si vous êtes sur Procyon, vous pensez que la France est championne de football. Vous ne connaissez pas la suite. Hein. Si vous êtes sur Capella, vous vous demandez si De Gaulle va encore rester longtemps au pouvoir. Si vous êtes sur Spica, vous voyez que Louis XV a succédé à Louis XIV. Vous êtes sur Deneb, vous voyez que les pharaons ont le pouvoir en Égypte et sur Terre. Autrement dit, on peut observer l'évolution des objets sans quitter le présent. C'est-à-dire, plus vous voyez loin, plus vous voyez dans le passé. Donc le temps et l'espace se mélangent. Ça, c'est une sacrée conséquence. Alors, essayons de voir toutes ces conséquences. Regardez, par exemple, quand je regarde la Lune, eh bien, la lumière est partie à une seconde. Le Soleil, la lumière est partie à 8 minutes. L'étoile la plus proche est partie à 4 ans. Le centre de la galaxie, 26 000 ans. Andromède, qu'on peut voir à la nuit, 2 millions d'années. Et puis les lumières les plus anciennes de l'univers, c'est 13,6 milliards d'années. Quand vous voyez un coucher de soleil, vous allez dire, oh, regarde comme c'est beau le coucher de soleil, regarde comme c'est beau. Vous pouvez répondre, c'est du passé. Donc vous voyez, on voit loin dans le temps, en quelque sorte. La lumière est malicieuse, regardez ici. Alors il y a l'illumination, illusion d'optique, soucoupe volante, apparitien, magicien, témoignage humain. À Nice, on avait fait une fois une expérience, on avait demandé aux gens de décrire la retombée d'une fusée. Et les gens n'ont pas décrit ce qu'ils ont vu. Ils ont décrit ce qu'ils avaient vu dans les bandes dessinées. Ils voyaient des hublots, il n'y a pas de hublots dans les fusées, etc. C'était une expérience qu'on avait faite dans les années 70. Alors regardez ça, ces lignes-là. Certains d'entre vous imaginent qu'elles sont inclinées. Pas du tout, elles sont parfaitement parallèles. Regardez cette ligne-là. Certains d'entre vous pensent que les segments sont de longueur inégale. Non, non, c'est exactement de longueur égale. Regardez d'autres illusions. Regardez ça, ce petit carré A, B. Certains pensent que A, c'est plus sombre que B. Mais regardez, je les relis. Complètement différent. Je ne les relis pas, je les relis. Je ne les relis pas, je les relis. Vous voyez les zones optiques? Attention. Alors, à quoi ça sert la lumière? À plein de choses. Si vous allez à l'hôpital vous faire soigner, on fait un scanner. Eh bien, le scanner, le logiciel du scanner est inventé par un astronome qui voulait constituer une galaxie à trois dimensions. Si vous voulez soigner des yeux, le chirurgien vous opère au laser. Une technique qui vient d'être inventée par les astronomes s'appelle l'optique adaptative, pour mieux voir à travers l'atmosphère, eh bien, le brevet est déposé, est appliqué maintenant dans la chirurgie des yeux. Autrement dit, il y a plein de retombées inattendues. C'est pas pour ça qu'on l'a fait a priori, mais elles existent. Comment attraper la lumière? Eh bien, entre le télescope spatial dont j'ai parlé, nos télescopes sur Terre, les grandes antennes radio, les satellites, nous avons différents moyens qu'on développe sur Terre, ce qui, de manière considérable depuis peu de temps. Donc, grâce à la lumière, on peut accéder à la nature des astres. Et trois techniques ont été inventées au XIXe siècle, la photographie, la spectroscopie, la photométrie. La photographie enregistre les grains de lumière, les photons qui arrivent, la spectroscopie vous étale la lumière et vous donne des détails, la photométrie vous donne la quantité d'énergie qui arrive. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, ça? D'abord, Newton avait remarqué que la lumière blanche se décompose. Si vous mettez un prisme, ça se décompose. Prisme ou un réseau. La lumière blanche se décompose en couleurs. Ce n'est pas le prisme qui colore la lumière, c'est le prisme qui révèle le fait que la lumière blanche est un ensemble de couleurs rassemblées. Ensuite, quand on prend le spectre, justement, on a comme des empreintes digitales. Ils avaient ici l'hydrogène, l'azote, le soufre, le chlore, le fer. Chaque atome a une signature indéterminée. Donc, vous voyez, on va pouvoir avoir la température, j'ai parlé tout à l'heure, on aura la composition chimique. On aura plein de données grâce à la lumière. Je passe rapidement ce qu'on a. La lumière est le mouvement. Un objet immobile par rapport à vous, c'est immobile, mais si l'objet s'éloigne, la lumière est décalée vers le rouge, s'il se rapproche, elle est décalée vers le bleu. Ça s'appelle l'effet Doppler-Fizeau, qu'on n'aurait jamais dû publier d'ailleurs, puisque les gendarmes s'en servent stupidement pour mettre ses radars au bord des routes. On n'aurait jamais dû leur apprendre ce truc-là. Hein, vous voyez, comme quoi ça, c'est dangereux de parler de science. Alors tenez, regardez. Si je roulais dans la rue à 290 km par seconde, voilà comment m'apparaîtrait la rue. Tout serait déformé. Donc en même temps, la lumière, là, ça s'applique à la réalité générale. Ma rue est faite en fait d'immeubles parallèles. Il n'y a pas de carrefour ici. Voilà ce que je verrais à cette allure-là. Vous connaissez l'histoire de l'automobiliste qui s'était fait arrêter par la police parce qu'il avait passé un feu rouge. Et il a dit, monsieur l'agent, je n'ai pas passé un feu rouge, c'est que m'avançant vers le feu rouge, le décalage par l'effet Doppler-Fizeau va faire apparaître le feu comme étant vert. Donc il a été dans le tribunal et le juge qui avait de l'humour a répondu, ah ben vous avez raison, si vous approchez du feu rouge, il vous paraît vert. Donc il lui a retiré l'amende. Pour, comment dirais-je, pouvoir brûler un feu rouge, mais il y en a mis une trois fois plus élevée pour excès de vitesse, puisque pour voir un feu rouge vert, il faudrait aller à quelque chose comme 150 000 km par seconde, ce qui est légèrement au-dessus de la vitesse permise. Alors maintenant, que nous apprend la lumière? Regardez un orchestre ici, 150 musiciens. Imaginez que ce soir, vous allez écouter un concert. On a eu un gars au lycée, il parlait trop vite, on n'a rien compris, etc. Alors je vais me parler un bon moment, je vais écouter un concert. 150 musiciens, vous allez vous régaler. Pas de chance d'être sourd. Alors vous secouez l'oreille, sourd. Secouez l'oreille, vous entendez un instrument seulement. Si c'est le triangle trois fois dans la soirée, vous vous ennuyez fermement. Et puis à force de secouer l'oreille, vous entendez tous les instruments. Eh bien, si vous n'entendiez qu'un instrument de l'orchestre, vous manqueriez beaucoup. Eh bien, là, vous voyez, entre l'orchestre complet et juste le violon, eh bien, jusqu'à ces dernières années, les astronomes ne voyaient qu'un instrument, la lumière visible. Ils ne voyaient pas les autres, les lumières, infrarouges, ultraviolettes, etc. Ça, c'est une autre technique. Ça, c'est une image de Trotsky. Et un peu plus tard, cette image est publiée, Staline a effacé l'image de Trotsky. Donc l'Union soviétique a déjà compris le traitement de la lumière, on efface ce qui est gênant. C'est ce qu'on fait nous en astronomie aussi. Prenez un tableau de Kandinsky, je prends le bleu, le rouge et le vert, vous voyez que chaque couleur me donne une information différente. L'une me donne le mât du bateau, l'autre me donne le village, etc. Vous comprenez que l'assemblage des couleurs va vous donner une somme d'informations, donc chaque couleur va vous extraire une information unique. Ça, c'est très important. L'autre point, donc la couleur dans la température. On l'a vu tout à l'heure avec le charbon. Regardez Aldébaran, Arcturus, Antares. Étoile rouge, l'atmosphère est à 3000 degrés. Le soleil, il fait du Centaure, jaune, c'est 6000 degrés. Sirius, Vega, Rigole, bleu, 25000 degrés. Donc vous avez tous remarqué que dans le ciel, les étoiles ont des couleurs différentes. C'est la température. Donc le week-end prochain, vous pouvez emmener votre petit ami IEUI en lui disant, regarde, t'as l'étoile. Pas vu le nez, 15000 degrés. Il me dira, comment tu fais? Je regarde. Donc vous avez compris que ça, la couleur, les étoiles n'ont pas la même couleur, vous donne bien entendu la température. Alors l'autre point, voici une image du ciel de Pluton prise par le télescope spatial. Et dans cette image-là, vous avez la croix du télescope. Vous voyez qu'il y a un monde fou. Autrement dit, quand vous prenez une image du ciel, il y a plein de choses. Et il va falloir traiter l'image pour que vous en débrouillez. Hein. Alors, traitons cette image. D'abord, regardez, le télescope spatial pointe très bien, puisque Pluton est immobile sur le centre de la photo. Il y a plein de choses. Donc, il y a un traitement très long. Maintenant, les images de Cassini dont je vous parlais, puisque j'ai un équipe d'imagerie, chaque image, nous mettons 3 semaines pour traiter une image. Comme on a pris 1 million d'images, il y a du travail qu'il y a à faire. Alors, elles ne sont pas toutes également intéressantes. Et donc, en traitant cette image, eh bien, on observe un petit point ici. C'est un satellite de Pluton qui est connu. Et un autre petit point qui est ici, c'est la découverte d'un satellite de Pluton qu'on a trouvé il y a 2 mois. Et voici une autre image qui vous donne ceci. Pluton est entouré par Charon, Hydra, Nix. Et voici P4, le 4e satellite, qui n'a pas encore de nom, qui a été découvert récemment en traitant cette image, justement. Alors, je vous disais tout à l'heure que nos yeux voient la lumière visible, l'arc-en-ciel, mais qu'au-delà et en deçà, il y a des lumières que les astres émettent, que nous ne voyions pas jusqu'à présent. Ces lumières, on les connaît. La radio, vous écoutez la télé, la radio, le millimétrique, vous rentrez chez vous, vous faites cuire un poulet au micro-ondes, le millimétrique, l'infrarouge, c'est une terrasse de café l'hiver, vous êtes chauffé par ça, l'ultraviolet, vous bronzez sur la plage, les rayons X, si vous pensez à une fracture de la jambe, à l'hôpital, on vous regarde dans quel état vous êtes, et en gamma, on vous fait un cancer avec ça. Autrement dit, ces rayonnements sont connus, ils sont utilisés sur Terre, ils nous sont familiers, mais jusqu'à présent, nous ne voyions pas ce que les astres nous envoyaient au sujet de ces rayonnements. Alors regardez le ciel. Regardez par exemple ici l'infrarouge, un chat, les yeux, la tête, les oreilles ne sont pas à la même température. Là, vous avez des gens dans un couloir la nuit, et ben, l'image non visible, on ne voit rien, l'image infrarouge montre ceci. Ce collègue qui travaille sur le satellite infrarouge, le voici dans son bras sous le plastique, et ben, la caméra infrarouge vous montre le bras. C'est-à-dire, elle passe à travers le plastique, évidemment. Autrement dit, selon la longueur d'onde dans laquelle vous regardez, vous avez une information différente ou complémentaire. Ça, c'était un tableau de Van Gogh, vous reconnaissez tous. Ciel étoilé dans le Arles. Voici Van Gogh peignant, quand il était en bonne santé, les étoiles dans le ciel. Van Gogh devient fou, il est complètement fou, on l'envoie à l'hôpital, on l'interne, il continue à peindre, et quand il est fou, voilà ce qu'il peint. Faut être fou, bon, ça. Et bien ce ciel-là de Van Gogh, quand il était fou, ressemble beaucoup plus au ciel réel, qui est changeant, bouillonnant, qu'au ciel précédent, qui semble ne pas bouger. Alors regardez, quand vous avez une sphère, on projette la sphère sur un plan. C'est comme ça que la carte de la Terre... Eh bien, vous avez l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc. Vous connaissez tous une carte de la Terre. On le projette sur une ellipse, de façon que les pôles ne soient pas de dimension trop grande. Eh bien, faisons la même chose pour la carte du ciel, la sphère céleste. Si on la projette sur un plan, voici que ça c'est le ciel que vous connaissez, la Voie lactée, les nuages Magellan en vue de l'hémisphère sud, Orion est par là, le Sagittaire est là, Ophiuchus est par là, le doublet de Cassiopée est par là. Bon, vous connaissez la carte du ciel. Bon, s'il y en a qui ne connaissent pas parmi dans votre famille... Pas la peine d'appeler SAMU, ça se soigne facilement. Je veux dire, c'est une connaissance de base, connaître le ciel. Et bien, regardez la même carte dans d'autres longueurs d'onde. Voici le ciel ici en radio, le ciel en infrarouge, le ciel en millimétrique et le ciel en rayon gamma. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Autrement dit, le visible est important, mais ce n'est pas tout. On a d'autres informations. Chacune est aussi importante que les autres. Autre parenthèse, je vous montre que les gens de collision ne se moquent pas de vous, parce que cette diapositive-là, pour la faire, chaque vignette a demandé 15 ans de travail, a utilisé environ 500 à 1000 personnes, et a coûté, chaque vignette a coûté entre 40 et 60 milliards d'euros. Donc vous avez au total 250 milliards d'euros projetés sur l'écran. Vous voyez que le matériel pédagogique est de qualité dans ce qu'il fait. Hein, c'est le... Alors, le soleil, regardez ça, il y a une lumière visible, ultraviolette, rayons X ou radio, en gamma, le soleil n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à chaque longueur d'onde, on voit plus ou moins profondément, ou plus ou moins en surface, et donc le soleil dans différentes longueurs d'onde, on voit la troisième dimension, en quelque sorte. Et le soleil est actif, la météo du soleil, on la suit, et c'est très important de la suivre, parce que le rayon du soleil frappe la Terre sans arrêt. Donc là aussi, la lumière des différents longueurs d'onde va nous donner une information. Alors maintenant, ce qui existe, on ne voit pas forcément directement par la lumière, je l'ai dit tout à l'heure. Regardez le centre de la galaxie. Ça, c'est la Voie lactée, un paysage terrestre. Là, on est au centre de la galaxie. En lumière visible, on ne voit pas jusque-là. Les poussières arrêtent avant. Lumière infrarouge, on voit jusque-là. Eh bien, on a trouvé jusqu'à présent, au centre des galaxies, beaucoup de galaxies, des trous noirs, de masse importante, qui, absorbant de la matière, émettaient un rayonnement important. Autrement dit, il y a des trous noirs massifs au centre des galaxies. La nôtre, on ne savait pas. Alors, on a fait un zoom. Je ne vais pas vous le faire, ça serait trop long, je vais juste donner les résultats. On a fait un zoom pour arriver au centre de la galaxie. Voilà ce qu'on voit. Rien. Alors, on va faire la chose suivante. On va photographier les étoiles qui sont les plus proches. Et vous allez voir ce qu'on va voir. Quand on photographie les étoiles, voici... On les voit bouger entre 1994 et 2003, 2004, etc. 93, 94, 95, 96, ça, elles bougent. Elles bougent autour d'un centre où il n'y a rien. Agrandissons cette image, voici la trajectoire de ces étoiles. Eh bien, qu'est-ce qu'on comprend? Que vous tournez autour d'un centre qui est massif. Les lois de Kepler, trouvées en 1610, il y a bien longtemps, vous donnent la masse de cet objet. Et vous trouvez un objet dont la masse est de 3 millions de fois la masse du Soleil, dans un volume qui est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Un trou noir. Il y a quand un trou noir au centre de la galaxie, celui-là, on ne le voit pas directement. Pourquoi? Parce qu'un trou noir ne se voit pas. Pour faire un très mauvais jeu de mots, enfin, alors qu'il y a, je peux me permettre, si on voyait un trou noir, ça serait troublant. Hein, donc, en gros, on ne voit rien. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans le trou noir? On voit ce qui tombe dans le trou noir. Le trou noir, il mange. Et quand il mange salement. C'est un gargantua, le trou noir. Il avale comme un cochon. Hein. Et donc, la matière qui tombe dans le trou noir frotte, elle chauffe, donc elle émet la lumière. Chaleur, lumière, je l'ai déjà dit. Et donc, on voit des trous noirs en train de manger dans l'espace, mais celui-là, il est au régime. Enfin, il se mange une petite terre par an, ce qu'il appelle un zakuski, hein, je veux dire, c'est rien. Hein. Donc, il y a un trou noir massif qu'on voit sans la lumière. Et de la lumière, c'est pas toute l'information. Tenez, ça, c'est si les anneaux de Saturne étaient autour d'un trou noir, eh bien, voyez, le dessus des anneaux, 1, le dessus 2, le dessous 3 et le dessous 4, voici la zone 1, la zone 2 et la zone 3 et 4. Voici à quoi ressembleraient les anneaux de Saturne si c'était autour d'un trou noir. Autour d'un trou noir, entre parenthèses, une dame élégante n'a pas besoin de prendre un miroir, puisqu'une dame élégante près d'un trou noir verra aussi bien la face que l'arrière, en même temps. Donc ne prenez pas de miroir. Enfin, vous approchez pas trop près, parce que vous aurez quelques ennuis. Alors maintenant, eh bien, regardons les anneaux de Saturne, par exemple, que j'ai montré au début. Galilée, voilà ce qu'il voit. Cassini, 1676, Iwan Key Division. De la Terre, quand moi j'étais étudiant, ben, voilà ce qu'on voyait, un machin, paraissait homogène. Et notre sonde voyageur, puis Cassini, nous montre un objet qui a 20 000 structures, extrêmement complexes à l'intérieur. Et on l'observe dans toutes les longueurs d'onde, ce qui fait que la lumière visible donne la structure, la lumière infrarouge donne la composition, vert clair, il y a de l'eau, et vert sombre, il n'y en a pas beaucoup, et rouge, il n'y en a pas du tout. Et la lumière infrarouge, elle, vous donne la température qui varie entre 70 et 110 degrés au-dessus des zéros absolus. Quasi. Et alors ça, c'est un petit clin d'œil, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Neptune, que j'ai eu la chance de découvrir en 1984. Voici, on s'approchait avec la sonde voyageur près de Neptune, et on trouve trois nuages pendant 6 mois d'approche, qui se développait. On a ce nuage-là, c'est un anticyclone qui a la taille de la Terre. Et on l'appelait la paramécie, parce que ça ressemble à une paramécie autour du microscope. Celui-là, c'est la moitié de la Terre, on l'appelait l'œil. Et celui-là, c'est un petit objet qui se dépasse rapidement, on l'appelait le scooter, parce qu'il a plus vite que tout le monde échange de fil sans arrêt. Et donc on a suivi les nuages, et puis, comment dirais-je, un petit peu auparavant, en 1610, donc, Galilée a trouvé les anneaux de Saturne, 1977, on a trouvé des anneaux autour d'Uranus, et 1979, on a trouvé des anneaux autour de Jupiter. Donc la question se posait, y a-t-il ou non des anneaux autour de Neptune? Alors, comment on les observait? Vous regardez une étoile, et au moment où la planète passe devant l'étoile, la lumière disparaît de l'atmosphère, ce qui donne des informations sur la composition, la structure de l'atmosphère, mais si la lumière disparaît avant et après, c'est qu'il y a des anneaux autour. Alors on a été observé. En 1981, 82, 83, 83, j'étais à Hawaï, au sommet dans le télescope franco-canadien. On a observé, 60 équipes dans le monde observaient, dans tout le bassin du Pacifique, à Guam, en Chine, à Formose, en Nouvelle-Zélande, en Australie, rien. Rien autour de Neptune. Donc mes collègues ont publié un article dans lequel ils disaient qu'il n'y a pas d'anneau autour de Neptune. J'ai refusé de signer cet article en disant que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Et j'ai voulu continuer à observer. Alors ça a obtenu une tente télescope, c'est pas forcément facile, on a une demande sur 10 qui est prise, donc 9 sur 10 rejetées. Mais à l'époque, jusqu'à cette date-là, toutes mes demandes avaient été acceptées. Et pour la première fois de ma vie, je veux observer en 1984, le 22 juillet, une occultation d'étoiles, et on me refuse la demande. Il dit, ouais, Braille, on aime bien, mais enfin, il commence à être âgé maintenant, il n'y a pas d'anneau, ton Neptune. J'attends, il n'y a pas d'anneau, mais si on regardait. Alors, je proteste, on me dit, attends, t'énerve pas, on me donne un petit télescope, et en gros, l'intuition de signal derrière une étoile, regardez, n'importe quoi peut la provoquer. Un nuage qui passe, un avion qui passe, un oiseau qui passe, une coupure de courant. Un gars qui donne un coup de coude dans le télescope, ou dépointé. Alors moi, j'ai pris 2 télescopes, à 1 kilomètre de distance, 2 sources électriques différentes. Je me suis dit, s'il donne un coup de coude au même quart de seconde, je vais prendre un projet de comédie musicale, tellement ils sont bien synchronisés. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, en 1984, on observe une interruption de signal ici. Mais le problème, c'est qu'on observe d'un côté de la planète et pas de l'autre. Alors, les anneaux d'une planète, je pensais jusqu'à présent que ça devait faire le tour. Si un étudiant m'avait dit en 1980... Monsieur, il y a des arcs de matière autour d'une planète. Je lui dis, mon petit, l'agriculture française manque de bras, tu dois faire autre chose. Hein. C'est pas possible. Hein. Loi de Kepler, ça va plus vite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc si vous mettez un arc de matière, en 4 ou 5 jours, une semaine maximum, ça fait un anneau complet. Donc un arc ne peut pas exister. Ben oui, ça ne peut pas exister. Mais ça existe. C'est ça la science. C'est ce qu'on attend. Alors, moi, j'annonce ça. En plus, il y avait un colloque qui avait l'air à Hawaï, je me souviens, au mois de septembre 84. J'y vais avec deux de mes étudiants de l'époque. L'un avait un poste et pas l'autre, c'était une jeune fille charmante qui a maintenant un poste. Mais on n'avait pas, je dis, bon, on va mettre la jeune fille en avant, histoire de la faire connaître. Et moi, j'étais au premier rang, jouant les souffleurs. Et la fille, toute timide, on passe la nuit à aller faire répéter son truc. Elle arrive devant les 400 personnes, là, elle est toute intimidée. Elle fait son truc. Et puis, il y en a un qui dit, vous avez bien vérifié la zone de Schtroumpf? Alors, bah, oui, on a vérifié. Oui, monsieur. Mais elle n'était pas convaincante. Donc, l'ensemble des gens ne nous croyaient pas. Et il y a un collègue américain, s'appelle William Hubbard, que j'ai appris à connaître après, qui est un type formidable, qui lève la main, qui dit, moi, j'étais à 80 km de là. Et j'ai rien vu. Ah, c'est français, ils racontent n'importe quoi. Hubbard dit, j'y étais, j'ai rien vu. Bon. Moi, j'étais sûr qu'on avait vu un truc. Les deux télescopes avaient une couleur de courbe. Mais qu'est-ce qu'on avait vu? Alors, tout le temps, c'est cool, on bosse là-dessus. Et je me rends compte qu'on avait vu était à 75 000 km du centre de Neptune, c'est-à-dire exactement à l'endroit où devait passer la sonde Voyager, qui était en route vers Neptune, qui l'a survolée en 1989. Donc, j'ai essayé d'aller voir la NASA pour essayer de voir si on ne pouvait pas repousser le passage un peu plus loin. Je ne croyais pas avoir une collision avec cette machin-là, mais je dis, il y a la poussière autour. Et si la poussière, l'électronique n'aime pas. On est passé à 27 km par seconde, les stations latines. Et puis, trois mois plus tard, Hubbard m'appelle, mois de décembre. Il oublie complètement qu'il y a 8 heures d'éclairage horaire entre l'Arizona et Paris. Donc, le téléphone sonne chez moi à 3 heures du matin. Ce qui, pour moi, est une bonne heure. L'astronome, ça travaille la nuit, évidemment. Donc, je décroche. Et le gars, tout excité, me dit, à quelle heure est ton événement? J'ai attendu, tu parles de quoi, alors? Alors, je regarde. Et le temps, lui, il avait envoyé un étudiant. Il avait dit à l'étudiant, il prenait le sien sur une bande papier. Il dit à l'étudiant, tu prends 3 points par seconde. Et tu vois, c'est gouré, il a pris un point toutes les 3 secondes. Et donc, il est passé à travers le phénomène. Mais heureusement, il enregistre une bande magnétique. Donc, 3 mois plus tard, dépouillant la bande magnétique, il voit une interruption de signal. Il m'appelle, donc, je regarde, et le temps qui séparait son observation et la mienne, c'était le temps que met l'ombre de Neptune pour faire 80 km sur la Terre. Donc, on avait vu la même chose. Alors, j'étais le voir tout de suite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a vu? On l'a publié, on a réussi à convaincre la NASA, je suis monté au quartier général pour faire ce qui se fait dans le Soleil, prendre 4 atomes d'hydrogène pour faire un atome d'hélium, ça donnerait l'énergie, ça serait pratiquement pas polluant, et il y a une expérience à Cadarache, au sud de la France, qui met ensemble les Européens, les Chinois, les Japonais, les Américains, qui coûtent d'ailleurs très cher, pour essayer de confiner le matériau pour atteindre la fusion, et enfin, les hommes résoudraient une grande partie du problème de l'énergie. Or, qu'est-ce qu'on fait à Cadarache? On a champ magnétique, on veut confiner le matériau. Et les équations de physique qui décrivent ce phénomène s'appellent les équations de Fokker-Planck, du nom des physiciens qui nous ont écrites. Or là, regardez ce qui se passe. Le matériau là est confiné radialement, est confiné azimutalement, et les équations de physique qui décrivent ça sont des équations de Fokker-Planck. Ça, c'est confiné pas par le champ magnétique, mais par des satellites. Autrement dit, il y a un phénomène de physique important que nous comprenons très mal pour l'instant. Comment vous faites pour confiner de la matière? Soit par le champ magnétique, soit par la gravitation. Nous avons les équations, nous observons ça. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on va résoudre le problème de l'énergie sur Terre en allant voir Neptune. Je suis en train de vous dire que la physique est universelle. Les paramètres sont pas les mêmes, les quantités sont pas les mêmes, mais il y a un problème de physique fondamental. Donc, on est en train d'étudier, j'ai mis des étudiants en thèse sur le sujet, on étudie ce comportement-là. Alors, vous savez, en science, quand on ne comprend pas quelque chose, on donne un nom. Et donc, j'ai eu le privilège de trouver de donner des noms à ces trois arcs, et je les ai donc appelés liberté, égalité, fraternité. Alors, il se trouve que j'étais membre du comité de nomenclature, ce qui aide un petit peu. Mes collègues américains n'en voulaient pas. On dit, ouais, ça fait trop français. Alors, je dis pas du tout, la liberté, c'est pas français, c'est universel. Donc, je me suis arrangé pour que nos réunions n'aient pas lieu en territoire ami, donc pas à Washington ni à San Francisco, mais je suis venu à Florence et à Buenos Aires. Donc là, à l'unanimité, liberté, égalité, fraternité marquent les confins du système solaire. Et pourquoi j'ai donné ces noms-là? Parce que c'est au mois d'août 89 que la photo est prise, et je vous rappelle ce qui s'est passé en août 89, vous n'étiez pas né, mais je vous rappelle ce qui s'est passé en août 89. Deux dictateurs épouvantables étaient chassés du pouvoir, au Chili et en Roumanie. En 1989, des étudiants manifestaient place Tiananmen à Pékin. En 1989, un mur tombait à Berlin. En 1989, on fêtait les bicentenaires des droits de l'homme. Donc je me suis dit que ce n'était pas idiot de marquer l'événement. Donc on a donné ces noms-là qui marquent les confins ici du système solaire. Et une de mes étudiantes, à l'époque, s'appelle Cécile Ferrari, dont les parents sont pas loin d'ici d'ailleurs. Cécile était maintenant à l'époque, elle est même prof à Paris. Elle a trouvé un quatrième arc. Ben, comment on va l'appeler celui-là? Alors on s'est dit, bah voyons, si on prenait un mot commençant par C, comme Cécile, donnant une qualité universelle, on l'appelait courage, qualité que tout le monde n'a pas. Donc ça fait courage, liberté, égalité, fraternité. Première lettre, ça fait CLEF. Qu'est-ce que ça veut dire clé? Eh bien en anglais, c'est la clé de musique, la beauté, l'harmonie du ciel. Et en français, c'est la clé pour la porte. Donc laissons les Anglais jouer de la musique pendant que nous essayons de comprendre ce qui se passe. Voilà, vous voyez qu'on s'amuse bien. Hein, c'est le... Ah oui, comité de nomenclature, je vous parlais, c'est amusant. Moi, pendant 30 ans, j'ai fait partie de ce comité qui donne des noms ce qu'on trouve sur les planètes, aux objets et autres. Alors, je me souviens un jour, c'était une réunion. On avait une réunion pour des noms sur Vénus. Alors, pour avoir son nom sur Vénus, il faut être une femme et avoir fait quelque chose dans sa vie, être morte au moins depuis 3 ans. Alors, donnant d'une femme, une coréenne, je sais qui, on dit c'est une héroïne coréenne du 12e siècle. Ah bon, voilà son nom sur Vénus. En nom d'une autre femme, on me demande c'est qui, une française, je regarde, c'était la Goulue, vous savez, la fameuse prostituée de Montmartre. Alors, on me dit c'est qui. Alors, je dis, c'était le modèle de Toulouse-Lautrec. Ah, très bien. Donc, la Goulue a son cratère sur Mars. Et puis, on me donne le nom d'une autre femme, une française, on me dit c'est qui. C'était la Pompadour. Alors, la Pompadour, formidable, c'est une femme qui a développé les sciences et les arts, très intelligente et tout. Donc, ils sont nom. Et mes collègues américains, pas question. La Pompadour était la maîtresse du roi, c'est un scandale. Je dis pas du tout, elle n'était pas la maîtresse du roi. C'est le roi qui était son amant, ce qui n'a rien à voir. Hein. Donc on discute, et la Pompadour est mise dans les attentes. Ça m'énervait. Alors on me donne le nom d'une autre femme après, je dis c'est qui, une américaine. On me dit c'est un poète, 1910, elle a écrit de très beaux poèmes. Ah bon, très bien. Et puis on me dit elle était ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Ah, je dis, pas question. On a dit pas de nom politique, pas de nom de général, pas de religion. Si on est ambassadeur, ce n'est pas du pouvoir politique, donc je refuse. On me donne son nom. Par contre, si vous prenez la Pompadour, je suis prêt à faire une exception. Hein. Donc vous voyez comment on discute, on s'amuse bien, hein, dans des noms. Hein. Alors, là, regardez, par les lumières. Là, là, vous avez Saturne, les anneaux et Titan. Et là, vous avez au bout de cette flèche un tout petit corps. Il fait 500 km, tout petit. Et moi, j'ai appris à mes étudiants dans 40 ans que plus un objet est petit, plus il a la chance d'être mort. La Lune est morte, la Terre est vivante. En gros, quand il y a de l'énergie au centre, il faut bien l'évacuer sans que ça bouge. Et puis quand il n'y en a pas beaucoup, et quand on est petit, il n'y a pas beaucoup de masse, la chaleur est dissipée depuis longtemps. Donc, ça doit être mort. Or, ce petit satellite s'appelle Encelade. C'est tout à fait le contraire. Chose très étonnante qu'on trouve. Regardez. Ça, c'est des images détaillées d'Encelade. Ça, c'est ce qu'on attendait. On pensait qu'Encelade serait chaud à l'équateur et froid au pôle. Or, il est chaud au pôle et froid à l'équateur. On essaie de comprendre pourquoi. Et ce qu'on découvre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, comment dirais-je, Encelade a un pôle sud. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de cratère. Ce qu'il y a des cratères, c'est qu'il n'y a pas d'activité géologique, on n'a pas effacé les cratères, c'est le bombardement, tout ce qui est dans le système solaire. Et donc là, il y a des espèces de failles qui existent. Et ce qu'on découvre, après voilà, c'est en 2005 qu'on découvre ça, on trouve une des éruptions. Ça, c'est l'image brute, et ça, c'est l'image traitée. En ce petit objet Encelade qui fait 500 km, envoie dans l'espace, qu'à 500 km de hauteur, plein de matière. Et cette éruption n'a pas lieu à un moment donné, ça a lieu en 2005, en 2006, en 2007, ça a conduit en 2010, ça a lieu depuis tout le temps. Autrement dit, Encelade alimente l'environnement de Saturne en matière, cet objet est très actif. Alors, d'où vient cette activité? On a essayé de comprendre. Alors, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de relier les éruptions avec les failles, et ce qu'on a compris finalement, regardez dans cette image-là, vous avez quatre failles qui sont ici, cette faille-là est jaune et très chaude, et celle-là est froide, en 2008. Et en 2009, celle-là qui est froide est devenue chaude, et on a compris que sur Encelade, près du pôle sud, vous avez des failles en forme de V, qu'en dessous, il y a une mer souterraine qui est très active, qui est très chaude, pas très chaude, 20-30 degrés, et il y a tellement de pression que de la vapeur d'eau sort par un trou. Mais comme il fait moins de 100 degrés à la surface, un bouchon se ferme. Il ferme le trou. Alors du coup, ça sort à côté. Un autre bouchon, ça sort à côté. Un autre bouchon. Et vous avez des parois pleines de bouchons des éruptions précédentes et une éruption incessante. Et le modèle qu'on a compris, c'est qu'il y a sous Encelade une mer d'eau liquide. Il y a une espèce d'océan qu'on appelait l'océan Perrier, du nom de l'eau minérale du même nom. Hein, parce que ça part ici. Et donc, vous trouvez le phénomène suivant, très étonnant. Vous trouvez que là, sous ce corps, il y a de l'énergie, en vrai de la matière en espace. Il y a de l'eau liquide et il y a de la chimie organique complexe. Or, si je vous demande, quelles conditions faut-il réunir pour qu'il existe de la vie quelque part? Bien, pour que la vie existe, il faut trois conditions. Il faut de l'énergie, il faut de l'eau liquide et il faut une chimie complexe. Sans réaliser là. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des dauphins et des baleines là-bas. Mais je suis en train de vous dire que, dans notre question, comment vous passez de la matière inanimée, de la roche, à la matière de la biologie, de la vie? C'est encore un chemin qu'on comprend en partie, mais pas complètement. Eh bien, allons voir ce qui se passe là-bas, pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des virus, des bactéries? Est-ce qu'il y a des formules plus évoluées? Est-ce qu'il n'y a rien? Et si on comprend cette espèce d'état intermédiaire, en quelque sorte. Et d'ailleurs, la priorité des agences spatiales américaines et européennes, c'est de retourner sur Encelade. On est en train de construire les sondes, les programmes ont été adoptés, lancement vers 2020. Et 2020-2030, on va retourner sur Encelade et sur Europe. Même chose sur d'autres satellites. Regardez ici. Alors ça, c'est ce qu'on verrait sur Encelade. Éruption en permanence, espèce de geyser permanent. Et regardez Europe, qu'on avait survolé en 1979, qu'on avait survolé Jupiter. On ne comprenait pas ça. Pas de cratère. Donc ça ressemble à quelque chose qui a bougé sur un sol boueux ou liquide. Eh bien, on a compris aussi que sous le sol d'Europe, il y a un océan d'eau liquide à nouveau, il y a de l'énergie, de l'eau et de la chimie. Et finalement, quand on fait un petit bilan de tout ça, regardez cette image à NASA qui est publiée la semaine dernière, on a retrouvé des espèces de failles sur le sol d'Europe, il y a une espèce d'océan en dessous. Et donc, il y a dans le système solaire, sous Europe, satellite de Jupiter, sous Callisto, satellite de Jupiter, sous Titan, satellite de Saturne, sous Encelade, satellite de Saturne, et sous Triton, satellite de Saturne, des endroits où il y a de l'eau, de la chimie, de l'énergie. Et donc, si vous m'aviez demandé en 1930, y a-t-il de la vie dans le système solaire ailleurs que sur Terre, j'aurais dit oui, ayant lu les livres de Flammarion et autres. Vous m'aviez posé la même question en 1950, je vous aurais dit je ne sais pas. Vous m'aviez posé la même question en 1990, je vous ai dit non, il n'y a pas de vie ailleurs que sur Terre. Vous me posez la même question aujourd'hui, je réponds je ne sais pas. Autrement dit, vous voyez que. Alors, je ne dis pas des hommes, bien entendu, pas des microscopiques. Mais on se demande s'il n'y a pas des choses là-bas à étudier, on va donc y retourner. De la même manière que l'exploration de la Terre n'est pas terminée et a pris des siècles, on commence une exploration qui va prendre non pas des siècles, mais des millénaires. Alors regardez par exemple la situation. Sur Terre, il y a des océans à l'air libre. Sous Mars, on soupçonne des mers souterraines. Et sous ces satellites de Jupiter, des planètes géantes, eh bien, il y a sous la banquise de l'eau liquide. Voilà les situations qu'on retrouve. Et regardez Callisto, où là, vous avez un impact qui a créé un cratère de 400 km, un peu comme quand vous jetez un caillou dans l'eau avec des ondes autour. Il y a les mêmes choses sur Mercure et sur la Lune. Eh bien, aux antipodes de ces collisions sur Mercure et sur la Lune, il y a des fractures. L'onde sismique a fracturé le sol derrière. Aux antipodes de Callisto, il n'y a pas de fracture. Il n'y a rien. Ça veut dire que l'onde sismique a été amortie. Amortie par quoi ? Par un océan souterrain. Donc vous retrouvez ces conditions très étonnantes, en tout cas inattendues. Ça c'est Triton, satellite de Neptune. C'était la fin de la mission Voyager. Triton un peu plus petit que la Lune. On s'attendait à avoir un corps comme la Lune. Moi, un de mes boulots consistait à compter les cratères. Vous voyez que je n'étais pas débordé, mais pratiquement pas. Et on a vu ce machin-là. On n'a pas rien compris. Là, ceux qui cherchent la planétique sont peut-être trouvés, c'est écrit dessus. Hein. Là, il y a ceux qui cherchent le sexe de l'objet, ils l'ont, puisqu'on a XY. Et puis, regardez ces traînées noires ici. On est passé à 27 km par seconde vitesse relative. J'ai pris quelques photos. Et regardez, ça, c'est une de ces trois photos. On a eu trois photos là-dessus, de ces traînées. Et on a mis 3 mois pour les dépouiller. Et ce que vous voyez sur ces photos, c'est un petit trait vertical, un trait horizontal et un autre trait parallèle en dessous. Avec 3 photos, on a fait un film. Donc, c'est un film plus naïf que Méliès, hein. Mais plus cher que Ben-Hur, puisqu'un milliard de dollars. Et mettant les photos à bout, vous voyez que c'est un geyser. Alors sur Terre, un geyser, on connaît. Yellowstone, en Islande, vous y allez, prenez des photos, montrez à vos amis, oh, machin de 20 mètres, pff, ça fait du bruit, c'est joli. Mais là-bas, le geyser, c'est pas 20 mètres, il fait 8 kilomètres. C'est du geyser. D'où vient l'énergie ? Pareil, océan souterrain, énergie, etc. Et donc, cette situation tout à fait inattendue, alors qu'on est là à 4,5 milliards de kilomètres de la Terre, que les températures sont de l'ordre de moins 240 degrés Celsius, c'est frisqué, mettez une petite laine si vous y allez. Hein. Alors maintenant, ça aussi, yo, quand on a vu cette photo, là aussi c'était censé compter les cratères, j'en ai pas trouvé, quand on a vu cette photo, on n'a rien compris. Pour montrer comment l'exploration, on est passé du jour au lendemain à un point de lumière, à un monde à part entière. On a vu ça, on s'est dit quoi ? C'est une pizza ? C'est une maladie pas avouable, c'est quoi ? Hein ? Le blanc, c'est de la glace. Le jaune, c'est du soufre. Et le noir, c'est le cratère d'un volcan. Et dans le cratère, il fait 20 degrés. Et depuis ces premières explorations, nous avons trouvé 110 volcans. Io, perturbé qu'il est par Orbe et Ganymède, à sa distance, à Jupiter qui varie légèrement. Donc il bouge un petit peu, l'effet de marée le fait pulser, donc ça chauffe. Et donc il faut bien évoquer la chaleur, d'où ces volcans. Et vous voyez cette coulée de lave ici, par exemple. Quand vous allez à Hawaï ou à La Réunion, vous avez une éruption volcanique. En principe, il n'y a pas le droit d'y aller, mais vous avez toujours un copain géologue qui vous fait passer par un endroit que la police ne connaît pas, donc on y va, et on passe la nuit à voir ces éruptions, c'est pas trop dangereux quand même, et toute la nuit, vous voyez une éruption naturelle, ah, c'est beau, etc. Je me souviens, c'est quelques séjours, vous avez une coulée de lave qui fait quoi ? 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres ! Puis c'est très beau, ça fait leur vis toute la nuit. Là, la coulée de lave, elle fait 15 km. Autre chose que ce qu'on a sur Terre. Alors maintenant, dans le monde des étoiles, quand moi j'étais étudiant, mes enseignants avaient dit à l'époque, tu sais André, jamais on ne verra la formation des étoiles, c'est un trop bref, on ne le verra pas. Eh bien, nous voyons la formation des étoiles. Comment ? Eh bien, grâce aux lumières infrarouges qui permettent d'aller à travers la matière, comme le gars qui avait son bras dans le plastique, souvenez-vous, on voit des maternités où les étoiles naissent, et on rentre même dans la chambre avec les petits bébés. Regardons ça rapidement. Dans l'espace, il y a de la poussière. Dans l'espace, il y a du gaz. Et ces piliers-là, invisibles, là, il y a une étoile qui se forme au bout du pilier. C'est la même image en infrarouge, pénétrée à l'intérieur, moins bonne résolution évidemment, et voyez comment on va s'approcher pour voir ce qui se passe là, et là on va voir ce qui va se passer à l'intérieur d'un tel endroit, où dans le milieu entre les étoiles, il y a des atomes de toute nature, il y a des molécules, et dans un excès de densité qui va faire apparaître là derrière, et après on prend le relais en infrarouge, vous observez en direct la formation des étoiles. Et tenez, cette image, j'avais montré, en lumière visible, vous voyez, on voit rien, c'est noir, la poussière arrête tout ça, et en lumière infrarouge, on voit plein de petits points qu'on ne voyait pas en visible, chaque petit point, c'est une étoile en train de se former. Et donc, là, regardez, vous avez ici en lumière visible un milieu interstellaire fait de plein de molécules, d'atomes, etc. En lumière infrarouge, vous pénétrez à travers, et au bout de chacun de ces piliers, là, vous avez une étoile en train de se former. On assiste en direct à la formation des étoiles. Je vais parler des détails, je vais assez rapidement. Mais voilà, vous rentrez dans une chambre, et tous ces grumeaux que vous voyez là, sont des grumeaux qui ont à peu près la taille de deux fois le système solaire. C'est-à-dire un cocon est en train de naître, et vous avez au centre des étoiles, et probablement aux environs, des planètes en train de se former. Donc c'est dommage, je n'ai pas mis le son sur l'image, mais si j'avais mis le son, ça aurait fait areux, les bébés sont en train de commencer à ouvrir un œil. Hein. C'est la formation d'un système solaire. Du coup, on comprend comment s'est formé le Soleil, comment s'est formé nos planètes, en regardant ce qui se passe à l'extérieur. Regardez, les deux leçons qu'on a, c'est que vous avez des éjections de jets de matière très fortes, à des années-lumière de distance, et vous avez dans le plan équatorial des disques qui se forment. Ici en infrarouge, j'avais un disque. Et donc, l'éjection de matière résout les problèmes qu'on avait de conservation du moment cinétique, enfin, je ne rentre pas dans les détails, et le disque en question, c'est là un endroit favorable pour que des planètes se forment autour. Et donc, à la question de savoir comment s'est formé le système solaire, est-ce que les planètes sont un produit naturel de la formation des étoiles, ou bien est-ce que c'est quelque chose de questionnel? On est plutôt en train de répondre par oui à la première question. Alors, voyez bien qu'en gros, il y a un aller-retour entre la matière interstellaire qui se condense en forme des étoiles, certaines explosent pour répartir ce qu'elles ont fabriqué, et donc il y a le cycle de la matière. Et donc, vous avez dans l'espace deux types d'étoiles. Vous avez les gros et les petits. Les gros, ça vit bien, ça fait la fête tous les jours, ça s'amuse beaucoup, ça donne plein d'énergie, ça dure pas longtemps. Les petits, ça fait pas d'excès, ça fait pas de ce qui se fera, on s'ennuie beaucoup et ça dure très longtemps. Alors, les petits font quoi? C'est le soleil, vous donne de la lumière pendant longtemps. Et les gros font quoi? Quand ils explosent, ils envoient dans l'espace les atomes qu'ils ont fabriqués. Autrement dit, tous les atomes en nous ont été fabriqués comment? L'hydrogène et l'hélium ont été fabriqués il y a 13 milliards d'années au moment du début de l'expansion. Tout ce qui est en vous est du chlore, de l'oxygène, de l'azote, de l'aluminium, etc., fabriqué dans une étoile. Et tout ce qui est de l'or, du plomb, de l'or, du platine, de l'uranium, a été fabriqué au moment où l'étoile explose. Autrement dit, nous sommes tous les enfants des étoiles, ce qui fait que quand la police me demande des détails sur mon identité, et non mon âge, je leur dis que mon âge est compris entre 6 et 12 milliards d'années, à lequel mes atomes ont été fabriqués. Le reste, c'est ma vie privée qui ne les regarde pas. Hein. Et j'essaie aussi de convaincre les jeunes filles qu'on a le même âge, mais je suis moins convaincant là. Hein, donc, mademoiselle qui est ici, qui est blonde là-bas, et au bout de son cheveu, elle a un atome qui était il y a 10 millions d'années sur la corne d'un escargot, 70 millions d'années sur la queue d'un dinosaure, etc. Nos atomes sont invivables, ils sont vivables pour contraire. Ils sont immortels et ils sont rassemblés à nous un peu par hasard, et puis ils vont se transformer en autre chose dans le futur. Nous, c'est comme ça que nos atomes ont été fabriqués, évidemment. Alors, le gaz interstellaire, vous voyez, en sélectionnant les lumières, comme j'ai montré au début, en rouge, c'est le soufre, en vert, c'est l'hydrogène, en bleu, c'est l'oxygène, on arrive à reconstituer la composition. Il y a même des molécules dans le gaz interstellaire, vous avez du propane, de l'antigel, du glycoldéhyde, des acétaminés, dioxyde de soufre, il y a plein de choses, du sel. Il y a même de l'alcool éthylique, ce qui prouve que le milieu interstellaire est civilisé. Hein. Donc il y a 150 molécules qu'on a découvertes dans cet espace interstellaire. Et là, vous avez les étoiles qui se forment, je vous montre rapidement, dans un milieu à différentes longueurs d'onde. On voit apparaître la formation des étoiles. Je passe rapidement. De temps en temps, les galaxies, qui sont des ensembles de milliers de milliards d'étoiles, rentrent en collision. Voici une résultat d'une des collisions ici. Et quand deux galaxies rentrent en collision, ce sont comme quand deux fantômes se traversent. Il y a beaucoup de vide. En se traversant, ça met la pagaille sur le des étoiles, mais le gaz se donne une densité plus grande, et là, ça forme, comment dirais-je, ça forme de nouvelles étoiles. Et la galaxie Andromède, qui est à 2 millions d'années de nous, qu'on peut voir à l'œil nu, eh bien, est en train de se rapprocher de nous, et va rentrer en collision dans notre galaxie. Et à ce moment-là, nous verrons dans le ciel deux voies lactées. Donc ne manquez pas cet événement, qui aura lieu dans un tout petit peu moins de 3 milliards d'années. Et donc la collision de ces deux galaxies, va faire une flambée de petits bébés qui vont apparaître. Et voici la simulation qu'on peut faire. Notre galaxie Andromède, voilà. Je résume ici. Ah ben, ça fait qu'une fois, mais enfin, attendez, si je reprends en arrière. Voilà. Voilà à quoi ça va ressembler. Quand les deux sont en collision, et aux endroits où ça cogne, on va former plein d'étoiles par la collision de galaxies. Donc, on comprend mieux la formation des étoiles. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quid de la vie ailleurs? Le 18 novembre, donc c'est pas vieux, nous avions trouvé la 700e exoplanète autour de notre étoile que le Soleil. Encore hier soir, on en est à 704 maintenant. Vous voyez, donc les nouvelles sont fraîches. Et donc, on essaie de voir s'il y a une planète autour. Mais attention, les planètes que nous voyons pour l'instant ne ressemblent pas du tout à celles du système solaire. Et donc, la grande question, c'est, y a-t-il une autre Terre ailleurs? Pour l'instant, je n'ai pas trop le droit de vous le dire, enfin, entre nous, ne répétez pas. Il semble que l'information bruisse. Il semble qu'on n'ait pas l'un d'entre une. Ce qu'on va l'annoncer dans 6 mois, dans 6 ans, je ne sais rien. Il faut vraiment être sûr, parce qu'une fausse nouvelle, ça fait toujours mauvais effet. Et donc, si on trouve une autre Terre, ce qu'on devrait faire, si elle existe, dans les mois qui viennent, sinon les années qui viennent, alors on va dire, est-ce qu'elle est habitable? Et là, on a moyen de voir si une couche d'ozone, si une couverture végétale qui change le spectre du côté entre le rouge et l'infrarouge. On a moyen de le savoir assez vite. Si on répond à la question, est-elle habitable? On va dire, est-elle habitée? Et par qui? Des bactéries, des virus, des dauphins, des baleines, des girafes, des rhinocéros, des gars qui peignent dans les cavernes, qui? Et puis au-delà, on cherche la vie intelligente, avec toute la crainte de la rencontrer éventuellement. D'ailleurs, j'ai un collègue qui dit, c'est la preuve que la vie intelligente dans l'espace existe. La preuve est la suivante. C'est que ces gens-là, ils sont très intelligents, parce qu'ils ne sont jamais du devoir, puisqu'on n'est pas intéressant. C'est bien la preuve qu'ils sont intelligents. Hein. Je ne sais pas, donc... Donc voyez, alors, détecter ces planètes, on le fait directement, comme les anneaux de Neptune. On essaie de voir si quand une planète est autour d'une étoile, si l'étoile ne vibre pas par son spectre. Voici une des techniques. On essaie de voir aussi, vous voyez, s'il n'y a pas une planète qui passe devant. Ça, c'est le satellite Kepler en ce moment, qui en trouve plein. Donc, on essaie de voir ces choses-là. On a trouvé un système dans la tête Kepler 11. Comparé au système solaire, vous voyez, il y a une série de planètes ici. Il y a donc des ensembles de planètes autour d'autres étoiles. On a trouvé une planète de 3,6 masses terrestres à 36 années-lumière. Est-elle habitable ou non? Elle est à la limite, celle-ci. Donc, oui, on est en train d'être pas loin de trouver ce qui sera une très grande nouvelle quand elle sera annoncée. Mais on n'en est pas tout à fait là encore. Alors, l'univers dans un instant, oui, dans ce pot pourri, je vous ai dit que plus on regardait loin, plus on est dans le passé. Voici ici un événement détecté le 28 août 2011. Vous voyez, c'est pas vieux. Et c'est une étoile qui a explosé. Mais à part que l'objet est à 21 millions d'années-lumière. Donc, ça a explosé à 21 millions d'années et le signal est arrivé aujourd'hui. Le 23 avril 2009, on a trouvé un autre événement, une autre explosion, mais qui s'est produit il y a 13 milliards d'années. Donc, vous voyez, on voit des phénomènes du passé. Alors, la question qu'on se pose, l'univers, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Quelle est sa géographie? Quelle est son histoire? Alors, on va essayer d'y répondre très rapidement, en 5 minutes. Alors, regardez. Là, c'est le record du monde pour l'instant. Au bout de cette flèche, un objet qui est... La lumière est partie il y a un peu plus de 13 milliards d'années. Et à la vitesse de 300 000 par seconde est arrivée à nous. Vous voyez que cette vitesse de 300 000 km par seconde fait que la lumière dans l'espace se déplace à la vitesse d'un escargot rhumatisant. C'est très lent par rapport à la taille de l'univers. Alors, en faisant la carte de l'amas de Centaure, l'amas de la Vierge, l'amas de Coma, l'amas de Persée, chaque point est un amas de galaxies. Je rappelle que chaque galaxie, c'est entre 100 et 1000 milliards d'étoiles. Et des amas de galaxies, ça comprend entre 20, 30, 40, 200, 1000 galaxies. Chaque point est un amas. Eh bien, on voit que la matière n'est pas distribuée de manière homogène, mais qu'elle semble se distribuer selon des filaments. Ah! Alors, en gros, on va se demander, mais à quoi ressemble l'univers si j'en sortais? Alors, ce que je veux dire est idiot. Par définition, l'univers, c'est tout. Donc, je ne peux pas en sortir, puisque c'est tout. Mais imaginons par la pensée que je sorte de l'univers. Ben, si on faisait ça, notre conception, c'est que l'univers ressemble à ça. L'univers ressemblerait à une immense éponge, qui mathématiquement est un objet intéressant, puisque on peut aller d'un bout à l'autre, en passant par les pleins ou par les vides. Topologiquement, c'est intéressant, en quelque sorte. Voilà à quoi ressemble l'univers. Ne me demandez pas pourquoi. C'est une observation. Ça ressemble à ça. Alors, comment est-on passé du début, en quelque sorte, d'une phase antérieure à cette phase-là? Alors, on va se poser la question. D'abord, premier point, c'est que l'univers, voici ici une carte du ciel, qui est à peu près la taille de la Lune dans le ciel, vous voyez. Et là-dedans, vous avez quelques centaines de galaxies qui, chacune, contient quelques milliers de milliards d'étoiles. Alors, ce qu'on observe, c'est que plus une galaxie est loin, plus elle soigne de nous rapidement. La fameuse expansion de l'univers, découverte dans les années 1930 par Hubble, et confirmée depuis. Et donc, du coup, puisqu'on voit que l'univers est en expansion, nous ne sommes pas au centre. Hein. Tous les objets soignent de tous. Un peu comme si j'envoie la fumée d'une cigarette dans cette pièce, je pars en courant, toutes les molécules, toutes les poussières de fumée s'éloignent les unes des autres, il n'y a pas un centre de l'expansion. La meilleure image que je peux te donner, c'est ça. Vous connaissez ici un tableau de Descher, qui est une structure métallique avec des mailles et des raccords pour chaque maille. Imaginez que je chauffe cet ensemble. Si je le chauffe, il va se dilater. S'il se dilate, chaque maille va s'éloigner des autres. Chacun pensera qu'il est au centre de l'univers, mais aucun n'y est au centre de l'univers. Donc l'objet, tout va s'éloigner de tout. C'est comme ça qu'on voit l'expansion de l'univers. Alors, si je remonte en arrière, l'expansion de l'univers, qu'est-ce que je dis? Eh bien, si tout s'éloigne, remontons le film en arrière, il y a un moment, comment dirais-je, tout doit occuper un tout petit volume, tout doit être très dense, très chaud. Et ce moment, on a calculé, quand il s'est produit, c'était il y a 13,7 milliards d'années. Donc il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était très rassemblé, en quelque sorte, tellement rassemblé qu'il n'y a pas de matière. Vous savez que matière et rayonnement, ça coexiste. Vous allez sur la plage, vous êtes sous le soleil, vous restez une demi-heure sous le soleil, vous êtes brûlé. Donc le rayonnement interagit avec la matière. Mais le soleil, ce n'est pas grand-chose. Imaginez les milliards de degrés que vous avez au début, la matière ne peut pas exister. Dès qu'un grain de matière apparaît, il reçoit une baffe, va te coucher, tu n'as rien à faire ici. Donc il n'y a que du rayonnement. Et de ce rayonnement qui s'est répandu, dont la densité a décru, il doit rester quelque chose. On s'est dit, Gamow, dans les années 45, s'est posé la question, et c'est lui qui a apporté l'idée. Imaginez quelqu'un dans cette pièce, avec une fiole de gaz, très chaud, qui casse la fiole de gaz. Eh bien, le gaz va se répandre dans la pièce. Si vous mettez un thermomètre au moment où il casse la fiole, 3000 degrés. Et puis vous mettez un thermomètre un peu une minute plus tard, une heure plus tard, un jour plus tard, une semaine plus tard, vous aurez la température qui va décroître. Eh bien, la première lumière du ciel que nous pouvons voir, elle a existé 380 000 ans après cet instant zéro. Et la voici. Le ciel ressemblait à ça. C'est le rayonnement fossile qui est actuellement à 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Disons 3 Kelvin, un peu de choses près. Et vous voyez ici qu'il y a des parties rouges, jaunes et bleues. Ça veut dire que cette lumière, on pensait qu'elle était homogène, isotrope. Pas tout à fait. Il y a des petites irrégularités. Le détail est d'un millionième de détail entre la partie jaune, rouge, etc. Mais ce petit millionième, c'est le début de l'histoire de la matière. Ça se refroidit, ça s'élargit, ça rentre en expansion, la matière peut apparaître. Et si nous sommes ici, cet après-midi ici, c'est parce qu'au début, ce n'était pas complètement homogène. Et donc la grande question que nous nous posons, c'est comment on passe de l'éponge que je vous ai montrée au ciel que je projette sur un plan, comment je passe de là à là. Ce que je sais, c'est qu'il s'est écoulé 13,7 milliards d'années pour ça. Donc je sais depuis 1953 que la Terre a 4,55 milliards d'années. Je sais que l'univers d'expansion a commencé il y a 13,7 milliards d'années. Mais rien ne me dit que c'est le temps zéro. Il n'y a pas un petit bonhomme barbu qui dit « Tiens, je n'ai pas grand-chose à faire cette semaine si je mettais 6 jours à créer l'univers et je m'en reposerai dimanche prochain. » Non, ce n'est pas ça. Hein. Simplement, ce que je sais, c'est que moi, astronome, je peux remonter en arrière et vous raconter ce qui s'est passé depuis 13,7 milliards d'années. Par contre, ce qui s'est passé à 13,7 milliards d'années, là, je suis un peu perdu. Pourquoi ? Parce que vous avez deux théories qui décrivent cela, qui ont été trouvées au XXe siècle. La théorie de l'infiniment grand, la théorie générale. La théorie de l'infiniment petit, la mécanique quantique. Ces deux théories marchent très bien. Quand vous utilisez pour les premiers un GPS, quand vous utilisez un téléphone portable, vous appliquez des découvertes récentes des théories de la théorie générale et de la mécanique quantique. Donc ça marche. Or, ces deux théories sont incompatibles. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a une qui est fausse et l'autre vraie ? Est-ce que ça veut dire que les deux sont fausses, que je prétends dans sa pensée ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence entre l'infiniment grand et l'infiniment petit ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas encore la théorie, je dirais, utile, c'est celle qui permettrait d'aller au-delà. Et en tout cas, la notion de temps que je posais au début, tout à l'heure, le temps n'a pas le même sens en relativité générale et en mécanique quantique. Autrement dit, quand on parle de début de l'univers, à une époque où Jean-Paul II était un peu commencé à être un peu fatigué et Hawkins commençait à être très fatigué, ils s'étaient rencontrés, le pape avait dit « Avant le Big Bang, c'est moi, après c'est vous ». Ils étaient tous les deux perdus. Non, c'est pas ça. C'est simplement nous, astronomes, nous sommes capables depuis peu de temps de décrire ce qui s'est passé depuis, mais en aucun cas c'est un début, bien entendu. Rien dans nos données ne permet de dire ça. Rapidement, donc vous voyez, plus je vois loin dans le passé, plus je vois loin dans l'espace, je vois loin dans le passé. Le Big Bang n'est pas le début, je vous l'ai dit. Et finalement, maintenant j'ai un problème. J'ai deux problèmes que je veux décrire. C'est quand je regarde les galaxies, que je regarde tourner, quand je regarde s'éloigner, j'ai deux problèmes. Depuis les années 30, un astronome suisse qui s'appelait Zicky, considéré comme un farfelu par ses collègues, mais qui en fait était très bon, avait trouvé que beaucoup de matière ne se voit pas. Je veux dire par là que les astronomes essaient de mesurer la masse des objets célestes. Il y a deux manières de mesurer la masse. Ou bien vous regardez ce qui brille dans le ciel, et on a trouvé une relation entre la luminosité et la masse. C'est facile, plus une étoile est grosse, plus elle produit d'énergie, donc plus elle produit d'énergie, plus elle est massive, ça on a compris. Vous regardez la quantité d'énergie qui arrive sur Terre, vous calculez la distance de l'objet, en ce moment on sait faire ça assez bien, la distance des objets, donc vous avez la quantité d'énergie qui part de l'objet. Donc vous avez la masse. Donc les objets qui brillent, voilà la quantité de lumière qui arrive, vous avez la masse. Ok. Autre manière d'avoir la masse, c'est ce qui bouge. C'est avec la masse, vous bougez parce qu'elle est attirée par de la masse. Si le Soleil était deux fois plus massif, la Terre tournerait deux fois plus vite. Tournerait plus vite. Et pareil, si le Soleil était moins massif, elle tournerait moins vite, etc. Donc du coup, plus il y a de masse, plus ça bouge vite. Or, quand vous calculez la masse de ce qui brille, vous trouvez un chiffre. Quand vous trouvez la masse de ce qui bouge, vous trouvez un autre chiffre. Il y a un facteur 10 entre les deux. Donc il y a 10 fois plus de matière qui bouge que de matière qui brille. Ah oui, la différence. Moi, quand j'étais jeune étudiant, j'ai entendu des scientifiques qui venaient faire des séminaires, qui disait dans 5 ans, on aura la solution. 45 ans plus tard, on n'a toujours pas. Et vous savez, quand on est prof à la fac, on fait partie des jurys de thèse. Alors, les jurys de thèse en sciences, c'est complètement différent des jurys de thèse en littérature. Littérature, ils s'engueulent. Mais en sciences, on est convivial. C'est-à-dire, en gros, on dit du bien du candidat, qui est content. On boit le champagne après, sympa. Et la maman est là, donc on dit du bien son petit, donc elle est contente comme tout. La petite amie est présente, elle dit bien, j'ai bien choisi, c'est bon. Hein, donc, vous voyez, on se fait des compliments. Alors, vous avez un candidat qui arrive, qui dit, il y a la masse qui brille, il y a la masse qui bouge, il y en a 10 fois plus, il a compris, il dit, il y a 8 manières d'interpréter ça. Il y a la matière qu'on appelle noire, et donc, il y a 8 modèles. Dans ce modèle, il y en a 7 qui sont stupides, il explique pourquoi, et un 8e intéressant, ma thèse. Alors, il décrit ce qu'il a fait, et il conclut qu'il faut continuer. On fait des compliments, on boit le champagne, très bien. La semaine d'après, il y a un autre candidat qui arrive, la matière qui brille, la matière qui bouge, il y a 10 manières d'interpréter d'interpréter ça, 7 stupides dont celle de la semaine d'avant, et puis une intéressante, ma thèse. Et bien, quand vous avez été membre de jury de 10 thèses, vous comprenez qu'on n'y comprend rien. Donc, 90% de la matière est sous forme de matière noire. On emploie le mot noir, ça veut dire attention, matière noire, ça n'a rien à voir avec le trou noir, avec le corps noir, avec la peinture noire. Noir, ça veut dire on n'y comprend rien. Alors maintenant, c'est pas fini. Moi, pendant 35 ans, j'enseignais mes étudiants que l'univers était en expansion. Et je leur disais, en même temps qu'il y a une expansion, la matière s'attire, et donc l'univers en expansion va ralentir. Est-ce qu'il ralentit jusqu'à retomber sur lui-même? Est-ce qu'au Big Bang va excuser le Big Crunch, le grand effondrement après le grand boom? Ou bien, est-ce que l'expansion est indéfinie? Vous prenez mes polycopiers de l'époque, tous les 5 ans, je change d'avis. Vous avez une nouvelle donnée. Bon. 1998, on trouve une étoile qui explose, qui n'est pas à la bonne distance. Plus exactement, c'est à la bonne distance, mais elle est trop loin. Tout se passe comme si l'univers en expansion s'était accéléré. Ah mais attendez, moi j'ai pas cru au début. Je vais se rendre à l'évidence. L'expansion, l'univers s'accélère. Ah, alors qu'est-ce qu'on va en déduire? Comment c'est possible? Pour accélérer l'expansion, il faut avoir de l'énergie. Mais l'univers, c'est tout. C'est pas de l'extérieur qu'on va avoir de l'énergie. Donc il y a de l'énergie dans l'univers. Einstein nous explique que l'énergie et la matière, c'est la même chose. Que la matière est une forme condensée d'énergie. Donc il existerait dans l'univers une forme d'énergie noire, sur laquelle on ne connaît rien du tout, qui accélérerait l'expansion. Et quand je fais le bilan, je le fais sur un camembert ici. Je me demandais de quoi est fait l'univers. Il est fait de 73% d'énergie noire dont on ne sait pas ce que c'est, de 23% de matière noire dont on ignore toute la nature, et de 4% du reste, dont on a vu 1% sur 4%. Autrement dit, avec 4000 ans d'efforts, nous sommes capables de vous décrire 1% de ce qui existe dans l'univers. Autant vous dire que nous ne sommes pas prêts d'être guettés par le chômage. Donc, c'est le problème de la matière noire, énergie noire. Alors, pour vous dire que, là on est entre nous, hein, vous ne répétez pas à l'extérieur, vous savez que dans l'univers, vous avez 4 forces fondamentales. L'interaction force qui tient vos protons et vos neutrons dans votre corps, l'interaction faible, la radioactivité, l'électromagnétisme. Vous savez que quand vous vous mettez à un endroit donné, vous allez suffisamment loin, il y a autant de charges positives et négatives. Autrement dit, ces 3 interactions dont je parle ont un rayon d'action limité. Non, pas jusqu'à l'infini. Puis la 4e force, la gravitation, qui a priori jusqu'à l'infini. Un objet à l'infini vous attire moins qu'un objet proche, mais vous attire. Imaginez que la gravitation, il fallait changer la loi, qu'il y ait une coupure. Attention, sortez pas d'ici. Il y a un gars qui est de la fac qui nous a dit qu'il fallait changer la gravitation. Il dit, ah oui, c'est braïque, Alzheimer a commencé chez lui, il dit n'importe quoi. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il faut changer la loi. J'ai dit, imaginez que vous changez la loi. Eh bien, si la gravitation avait une coupure, à une distance telle qu'on ne l'ait pas vérifiée directement. C'est-à-dire que la gravitation très loin, dans le monde extragalactique, c'est une extrapolation. Eh bien, si c'était comme ça, tout ce que je vous dis sur matière noire et énergie noire est à mettre au panier. Autrement dit, nous sommes à un carrefour où bien nous allons trouver 96% de ce qui constitue l'univers qu'on ignore pour l'instant, ou bien il faudra changer les lois de physique. Et quel que soit le résultat, c'est quand même intéressant. Et c'est ça qui rend la science passionnante. C'est que sans arrêt, il y a un suspense, en quelque sorte. Alors bon, vous voyez que là, c'est un problème. Alors tenez, ça, c'est un petit calendrier. Imaginez qu'on est 31 décembre aujourd'hui et que tout ça commence le 1er janvier. Alors, passons rapidement. 1er janvier, on fait la fête, c'est le grand boom, un big bang. Le 1er avril, on forme la Voie lactée, c'est pas une plaisanterie. Et 9 mois plus tard, après avoir fait la fête, il y a un petit bébé qui apparaît avec le système solaire. Alors, je vous le signale tout de suite qu'il n'y a aucune relation de cause à effet entre le 1er janvier et le 9 septembre. Le système solaire apparaît le 9. La Terre se forme le 14 septembre, la vie apparaît le 25 septembre, les roches les plus vieilles le 2 octobre, les fossiles les plus anciens le 9 octobre, le 1er novembre une invention qui a un très gros succès commercial, l'invention du sexe, le 12 novembre les fossiles des plantes, la photosynthèse, le 15 novembre les premiers noyaux, vous allez voir, au mois de décembre on est totalement débordé, alors c'est pas lisible mais je le dis, ça me sert de pense-bête. 1er décembre, l'oxygène apparaît sur Terre. Le 5, volcanique sur Mars. Le 16, les vers. Le 17, les invertébrés. Le 18, le plancton. Le 19, les poissons. Le 20, les plantes. Le 21, les insectes. Le 22, les amphibies. Le 23, les reptiles. Le 24, les dinosaures. Le 25 décembre, il se passe rien. Bon, c'est bien connu. Le 26 décembre, les premiers mammifères. Le 27, les premiers oiseaux. Le 28, les dinosaures sont morts. Regardez les dinosaures, ils ont régné 4 jours. C'est considérable, 4 jours. 4 jours, ils ont régné. Le 29, les premiers cétacés. Le 30, les grands mammifères. Et le 31 décembre, à 22h30, apparaît ce produit parfait, l'homme. Donc déjà, vous voyez, nos ancêtres qui croyaient qu'on est au centre de l'univers avaient un nombril démesuré. Hein. On apparaît à 22h30. Il commence à avoir un peu froid, 23h46, il domestique le feu. Il a un sens artistique développé, 23h59, il peint dans les grottes en Europe. À 23h59, il invente l'agriculture, il a faim. À 23h59, les premières dynasties, Sumer, l'Égypte, l'astronomie. À 23h59, il invente l'alphabet. À 23h59, le fer, l'Assyrien et Carthage. À 23h59, les Romains, Euclide, Archimède, Ptolémée. À 23h59, les Mayas, Byzance, les Mongols, les Croisades. À 23h59, la Renaissance en Europe. Espérons simplement qu'à 24h, ça ne sera pas ça, en mémoire de l'homme, hein, qui a détruit la Terre par ses déchets, son trop nombre, etc. Alors, ça, c'est une photo triste, je tourne. Vous voyez, comme quoi, dans l'histoire de l'univers, l'homme a duré 1h30. Donc, modestie. Hein. Alors, j'y souviens à mes collègues, pour moi, la vie dans l'univers est un épiphénomène. L'univers s'en moque. On me dit, comment tu peux dire ça, André? Tu ramènes la vie à pas grand-chose. Je dis, au contraire. Moi, ce qui m'épate, c'est que nous qui sommes rien dans ce univers, un cerveau aussi peu développé, comme je vous l'ai dit, qu'on ait trouvé autant de choses en aussi peu de temps. Ça, c'est extraordinaire. Par contre, effectivement, on n'est pas grand-chose. Alors, maintenant que j'ai fini cette introduction, je peux commencer ma conférence, hein, qui ne durera que 5 minutes, hein, pour vous montrer juste quelques dernières nouvelles du système solaire. Voici le rêve de nos ancêtres. Nos ancêtres rêvaient d'habiter les planètes, dessin de Granville en 1850. Et ce rêve, nous sommes la génération qui l'a réalisé. Autrement dit, j'ai envie de vous dire, moi je vois ici, moi, vous me faites tous envie. Qu'est-ce que j'aimerais avoir votre âge? Ben oui, je veux dire, moi je suis prêt à dire à chacun d'entre vous, je vous donne mon poste et vous me donnez votre âge en échange. Et vous me direz non, vous aurez raison. Hein. Autrement dit, nous sommes la génération qui n'a jamais vécu aussi vieux, qui n'a jamais été aussi bien soigné, qui n'a jamais connu autant de choses, et qui n'a jamais eu une aventure scientifique aussi extraordinaire. Et quand vous regardez la télé, quand vous avez un journal, ils sont tristes. Oh, c'est la crise. Il y a plein d'homotristus, c'est la triste, etc. Alors que ça n'a jamais été aussi extraordinaire. Donc les homotristus, ne les écoutez pas. Moi, je plaide pour les homorigolus, hein, qui sont moins nombreux, mais plus sympas. Hein. Donc, on a trouvé plein de choses. Et dans la vie de l'enthousiasme, c'est ce que je vous propose. Alors, le système solaire. En deux mots, 8 planètes, le soleil, voici les tailles relatives. 4 planètes intéressantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Pourquoi intéressantes? Elles ont l'hydrogène et l'hélium, comme le reste de l'univers, comme le Soleil. Elles ont toutes des anneaux, elles ont toutes des cortèges de satellites, 60 autour de Jupiter, 62 autour de Saturne, on en connaît une vingtaine autour d'Uranus, etc., on n'a pas tout trouvé. Et puis 4 débris, ici, nous on abrite le 3e débris en partant de la gauche. Débris parce qu'il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'hélium, il n'y a pas d'anneaux, il n'y a pas de cortège de satellites. Et pourquoi débris? Parce qu'il faisait chaud, quand il fait chaud, l'hydrogène et l'hélium sont partis, et on forme ce qu'on peut et ce qui reste. Comme une casserole d'eau que vous allez mettre sur le feu pour faire une soupe. Et vous mettez un peu de sel et de poivre, téléphone sonne, vous allez répondre au téléphone, ça dure une heure, vous revenez, toute l'eau s'est évaporée, il reste un peu de sel et de poivre. Ça, c'est ça la Terre, c'est ce qui reste quand tout est parti. Alors maintenant, sur ces objets, Vénus et Mars, on pose beaucoup de problèmes sur le changement climatique. Est-ce que la Terre se réchauffe, refroidit? C'est toute une discussion en ce moment. Eh bien, dites-vous, sur Vénus, l'effet de serre a explosé. Sur Vénus, si j'étais sur Vénus à la même altitude que hier aujourd'hui, eh bien, il fait 17 degrés aujourd'hui ici, il en ferait 22 sur Vénus. On est un peu plus près du Soleil, même masse, même rayon, même taille que la Terre, même topographie sur Vénus. Mais l'effet de serre ayant explosé, pression au sol 100 atmosphères, écrasée, température 400 degrés, atmosphère dioxyde de carbone, avec un petit peu d'acide sulfurique et chloridique pour donner du goût. Voyez. Donc un enfer. C'est l'enfer. Sur Mars, si je vous mets sur Mars un maillot de bain, votre sang va se mettre à bouillir, ce qui n'est pas plaisant. Hein. Autrement dit, l'effet de serre a avorté. On pense que la vie existait sur Mars, qu'elle est même née sur Mars avant la Terre. Hein. Le climat était doux et humide. L'effet de serre a avorté, la vie est impossible. Autrement dit, là l'effet de serre a explosé, là l'effet de serre a avorté, nous on est au milieu. Ben, si on voulait savoir à quelle source on sera mangé, c'est peut-être pas idiot d'étudier l'histoire thermique de Vénus et l'histoire thermique de Mars pour mieux comprendre ce qui risque de se passer sur Terre dans le futur. Alors regardez l'évolution, là je vais vous montrer où sera hier dans 250 millions d'années. Vous savez, la dérive des continents, la Méditerranée se referme et donc hier sera au-delà du cercle polaire. Ça c'est simplement pour ceux d'entre vous qui devraient acheter une maison dans le coin. Hein, vous dites au propriétaire que les conditions vont se dégrader et qu'il a intérêt à vendre rapidement à un bon prix. Hein. Vous barrez simplement ce que j'ai mis là, hein, pour le temps. Hein. Et puis hier, dans un peu plus tard, ça c'est hier dans 1 milliard d'années. Qu'est-ce qui se passe dans 1 milliard d'années? Eh bien, contrairement à ce qui est écrit dans les bouquins, la chaleur du soleil n'est pas constante. Le soleil est plus chaud avec le temps. Autrement dit, quand la vie est apparue sur Terre, il y a 3,8 milliards d'années, eh bien le soleil était 30% plus froid. Donc la vie a dû s'adapter à ça. Eh bien, dans un milliard d'années, le soleil sera plus chaud. Pour une raison très simple, c'est qu'au centre du soleil, 4 atomes d'hélium font un atome, 4 atomes d'hydrogène, pardon, font un atome d'hélium, que 4 atomes d'hydrogène occupent un volume plus grand qu'un seul atome d'hélium. Donc avec le temps, le volume se réduit, la pression augmente, la température augmente, et donc elle est transférée. Autrement dit, je suis en train de vous dire que la vie a commencé sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, et qu'en dans un milliard d'années, il n'y aura plus de vie sur Terre. Autrement dit, la vie sur Terre est plus proche de la fin que du début. Alors ne rentrez pas désespérés chez vous avec cette mauvaise nouvelle. Dites-nous simplement qu'un milliard d'années, ça donne le temps de se retourner, de s'adresser à une entreprise de déménagement ayant de bonnes références, pour aller dans un endroit sympathique dans l'univers, et il n'en manque pas. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Mais voyez que les choses ne sont pas ternaires, en quelque sorte. Hein. Alors, une petite anecdote. Je vous donne quelques nouvelles rapidement, une anecdote, et j'en terminerai là. L'anecdote est la suivante. Vous savez que les astronomes qui étudient les planètes depuis 4000 ans n'étaient pas d'accord sur leur définition. Les Grecs avaient vu dans le ciel des objets qui bougeaient par rapport aux étoiles. Ils en appelaient des vagabonds. Or, en grec, un vagabond, ça se dit planète. Et pour les Grecs, les vagabonds étaient Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, le Soleil, la Lune. Ça, on a maintenant que le Soleil n'est pas une planète, ni la Lune, et que la Terre, qu'ils pensaient au centre de l'univers, est en fait, elle, une planète. Alors bon, très bien. Au XVIIIe siècle, les Anglais ont trouvé Uranus. Au XIXe siècle, les Français ont trouvé Neptune. Et au XXe siècle, les Américains ont trouvé Pluton. Tout le monde était content. Quand on trouve Pluton, on pense que Pluton a 5 fois la masse de la Terre, ce qui est faux. Et le temps avançant, on s'est rendu compte que Pluton est un tout petit machin. Donc moi, à l'université, pendant des années, j'ai enseigné aux étudiants que Pluton n'est pas une planète, mais est un gros astéroïde. Ça ne dérangeait personne. Et puis, un jour, 2003, un de nos collègues, s'appelle Brown, a trouvé un objet ici, plus gros que Pluton. Et il a dit, si Pluton est une planète, alors je revendique d'avoir trouvé une planète. Si Pluton n'est pas une planète, je revendique rien. Donc les journalistes, les éditeurs de livres scolaires, les profs des lycées, tout le monde nous appelait, il y a combien de planètes dans le système solaire? Alors moi, je répondais 8. Certains collègues répondaient 9, comptant Pluton. Et d'autres répondaient 10, contenant le nouvel objet. Le nouvel objet qu'on a appelé Eris, du nom de la déesse grecque de la discorde, nom bien choisi en l'occurrence. Hein. Et donc, désaccord entre nous. Alors, on n'est pas l'air idiot. Nous, astronomes, censés intelligents du ciel, n'est pas fichu de dire ce qu'est une planète. Alors, comme je vous l'ai dit, je fais partie du comité de nomenclature. On s'est réunis plusieurs fois. Et on a une réunion au fond d'un fjord en Norvège. J'ai mis 2 jours pour y aller, un endroit superbe, mais alors pas facile pour y aller. On avait un homme 2 jours chargé. On a parlé pendant 2 jours que de la définition d'une planète. Et au bout des 2 jours, on a voté. Nous étions 10 membres. 3 ont voté qu'il y avait 8 planètes, dont moi. 3 ont voté qu'il y en avait 9, 3 ont voté qu'il y en avait 10, et 1 s'est abstenu. Vous voyez, une situation claire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète? Et tout le monde se moquait de nous, les journalistes se moquaient de nous, les éditeurs, les scolaires ont publié le bouquin, on met comme une planète. Et pourquoi moi, je tenais à 8? Parce que je savais que des objets comme Eris, on allait en trouver plein, et que donc en 2015, on aurait dit il y a 12 planètes, qu'en 2020, on aurait dit il y en a 14, qu'en 2050, on aurait dit il y en a 60, etc. Et donc, les gamins n'auraient jamais su combien de planètes il y a. Donc, voilà. Alors, en 2006, l'Union Astronomique Internationale, qui rassemble l'ensemble des astronomes professionnels, s'est réunie comme tous les 3 ans, l'Assemblée Générale, et à cette occasion, on nomme un nouveau président. Et pour la première fois, le président qui est une présidente, Catherine Czerski, qui serait une bonne amie, qui est maintenant la haut-commissaire du CEA, et Catherine, c'est une femme. Non, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir dans la vie que les femmes, c'est plus solide que les hommes. Les femmes, ça fait des bébés, donc c'est sérieux. Les hommes, c'est pas grand-chose. Hein. Catherine me dit, André, je vais pas me laisser embêter par les journalistes et tout le monde qui vont m'appeler 3 fois par jour pour me dire, il y a combien de planètes? Alors, il faut résoudre le problème. Donc, je vais mettre un comité en place. Je vais en faire le coup du pape. Hein, je les enferme, ils sortent que quand ils ont la solution. Et je le fais entériner par l'Assemblée Générale. Et donc, elle met un comité appelé des sages. Elle me met dedans. Donc, je n'ai jamais été sage. Et le comité, il y avait 3 Américains. Un Anglais, un Japonais et un Français, j'étais le Français de la bande. Je commence à protester en disant que l'angle de travail était l'anglais, 4 membres du comité sont de langue maternelle anglaise, on n'allait pas en plus se réunir dans un pays de langue anglaise. Donc je refuse d'aller aux États-Unis ou en Angleterre en disant je viens qu'une réunion, mais soit à Paris, soit à Tokyo, pas ailleurs. Donc on discute, alors Catherine me dit attends, comment ça, mais c'est pas gagné, André, etc. Donc, et puis finalement, se réunir Paris. Et Paris a un grand avantage, c'est que Paris a de la bonne astronomie, mais aussi de la bonne gastronomie. Hein. Et alors, pour vous montrer comment dans la vie, c'est un conseil que je vous donne, comment obtenir quelque chose dans la vie. On se réunit le premier jour poliment, on ne se connaissait pas. Les points de vue, je dis, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On est complètement opposé. Donc je les invite dans un restaurant que j'aime bien, dont je connais bien le patron à Paris, qui ouvre le soir à 7h30 et qui ferme à 5h du matin. Ils ont le temps de dîner. Hein. Je les emmène là et on commence à discuter, à mieux se connaître. Et il y a un petit pomerol sur le patron qui n'était pas mauvais, donc je commence à boire du pomerol. Et à la 3e bouteille, eh ben, on se comprenait mieux. Hein. C'est les points de vue. On n'était pas d'accord, mais enfin, on se comprenait mieux. Donc, première attitude, quand dans la vie, vous avez un problème avec quelqu'un, vous l'invitez à dîner, et ça résout beaucoup de problèmes. Hein, premier point. Deuxième point, on avait beau mieux se comprendre, on n'était pas encore, d'accord. Alors, quand vous voulez vraiment quelque chose dans la vie, voilà le conseil que je vous donne. Vous voulez trois choses, par exemple. Eh bien, vous en inventez une quatrième dont vous vous moquez complètement. Et vous dites, je veux la quatrième, sinon je fais la grève, sinon je fais une manifestation, sinon je proteste, sinon je fais un scandale. Vous mettez la pagaille. Alors le sujet est bien bloqué, ça n'avance pas. Et quand c'est bien bloqué, vous dites, écoutez, je vois qu'on n'avance pas, les gars. Donc je vais faire un geste. Je vais renoncer à ma quatrième condition. Ça me fane le cœur, mais je vais renoncer. Les autres disent, je fais un geste, nous aussi. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. On fait la quatrième condition, l'Assemblée générale n'a pas prise et j'ai eu ce que je voulais. Bon, voilà, donc c'est le conseil que je vous donne. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, on a mis quatre conditions. L'Assemblée générale, au début, c'est la pagaille, les journalistes étaient présents, Le Monde a titré un jour, il y a 12 planètes dans le système solaire et le lendemain, titré, il y en a 8. Les lecteurs n'y comprenaient plus rien. Et finalement, on a donné des films d'une planète que je vais vous donner. Ah, ça, c'est un dessin des Américains. Ça, c'est censé être moi. Hein. J'ai jamais eu de moustache ni de lunettes. Hein. Donc, puisque Pluton n'était plus une planète, ça embêtait quelques Américains. Voilà. Donc, la définition est la suivante. Pour être une planète, il faut tourner autour du Soleil. Il faut être rond. Rond, ça ne veut pas dire qu'on a du pomerol. Hein. Ça veut dire de forme sphérique. Hein. Ça veut dire qu'on a, en physique, ça veut dire être en équilibre hydrostatique. Et il faut avoir fait le ménage. Faire le ménage, ça veut dire qu'il n'y a pas une Terre à côté de la Terre, un Jupiter à côté de Jupiter. Mais chaque planète a fait un petit peu le vide autour d'elle. C'est-à-dire que si je fais venir un corps supplémentaire, ici, dans le système solaire, soit il s'évadera, soit il tombera dans le Soleil, soit il deviendra un satellite, soit il restera là, mais il chassera une planète existante. Les mathématiciens diraient que le système solaire est plein. On ne peut pas mettre une neuvième planète. Et donc, il pourrait éventuellement y avoir une neuvième planète, mais très très loin, à 200 ou 300 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de matière. Donc, il n'y a pas très bien comment ça peut se former. Donc, le système solaire, 8 planètes et pas plus. 4, je vous ai dit, planètes géantes, intéressantes, 4 petites. Alors, maintenant, si on ne s'assied qu'à deux conditions, tourner autour du Soleil et on est de forme ronde, on appelle ça une naine. Et les naines, on en connaît 5 jusqu'à présent, qui sont Cérès, Oméa, Makemake, Pluton et Eris. Et on en trouvera plein d'autres dans le futur. Et si on obéit à une condition, tourner autour du Soleil, mais pas aux deux autres, on appelle ça un petit corps. Qu'est-ce que c'est qu'un petit corps? C'est une comète, un astéroïde. Et nous en connaissons pour l'instant environ 1000 milliards. Et par exemple, Vesta, vous voyez ici, n'est pas tout à fait de forme ronde, alors que Cérès est de forme ronde ici. Alors rapidement, quelques nouvelles du système solaire. Alors l'origine du système solaire, souvenez-vous des grandes discussions de la Grèce ancienne, création éternité. Certains disaient on ne peut pas créer le monde à partir de rien. Donc Aristote disait l'éternité. Alors comme disait Pierre Dac, Pierre Dac disait l'éternité c'est très long, surtout vers la fin. Hein. Et donc en gros, l'origine du système solaire, vous avez quatre mouvements, les mythes anciens des populations primitives, ou dans toutes les populations primitives, océaniennes, africaines, de tout le monde entier, la tribu avait un mythe. Et ces mythes sont d'ailleurs très, très poétiques, très amusants. On vous raconte l'histoire du monde. Et celui dans la tribu qui ne croyait pas au mythe était chassé parce qu'il mettait en danger la vie de la tribu. Plus tard, les religions s'en emparent. Alors, si vous êtes chrétien, vous dites, moi, je connais l'origine du monde, c'est dans la Bible. Si vous êtes musulman, vous dites, je connais l'origine du monde, c'est dans le Coran. Si vous êtes juif, vous dites, je connais l'origine du monde, c'est dans la Torah. Et puis, les scientifiques s'en emparent au moment de la Renaissance. Donc, l'approche, c'est deux piliers. Et aujourd'hui, la science contemporaine a été explorée, le système solaire, a fait l'inventaire, a regardé se former les étoiles. Et pour la première fois depuis, je dirais, 6000 ans, les scientifiques sont d'accord, non pas sur le détail, mais sur les grandes étapes de la formation des planètes. Nous comprenons que les planètes ont été formées en rassemblant des corps plus petits, qui par leur collision douce c'est un mariage, collision violente c'est un divorce, et cette succession de divorces et de mariages ont donné les planètes que nous connaissons. Alors, rapidement, les données de l'âge de la Terre. Si vous m'aviez invité au XVIe siècle, je vous dirais que la Terre a 5738 ans, plus ou moins un an. C'est un moine anglais qui a compté les générations dans l'Ancien Testament. Il y a plus ou moins un an parce qu'il ne savait pas si les gens étaient nés en février ou en juillet. 18e siècle, Buffon, il lance un boulet de canon, il regarde le temps que le boulet de canon met pour se refroidir. Il extrapole la Terre, il trouve 70 000 ans. 19e siècle, Lord Kelvin, qui est un grand thermodynamicien, il calcule par les lois de thermodynamique récemment trouvées, le temps, la formation de la Terre, il trouve 200 millions d'années pour refroidir la Terre. Darwin, qui faisait, dit « je ne suis pas d'accord », et qui faisait évoluer les espèces, il dit « je suis pas d'accord parce que en 200 millions d'années, j'ai pas le temps de faire évoluer mes espèces ». Et au XXe siècle, par les datations radioactives, on a connu l'âge de la Terre, 4,55 milliards d'années, par un Australien qui s'appelle Patterson, 1953, qui énerve tous les géophysiciens. Cet Australien a très mal travaillé. Il a fait plein d'erreurs. Mais il a fait tellement d'erreurs que chaque erreur était compensée par une autre erreur. Hein. Donc comme je dis à mes étudiants, le jour de l'examen, vous pouvez faire plein d'erreurs, je fais l'éloge de l'erreur, c'est comme ça qu'on progresse. Je leur dis simplement qu'en fait, il faut toujours faire un nombre pair d'erreurs, jamais un nombre impair. Hein. Puisqu'il y a toujours une qui compense l'autre. Donc nous avons l'âge de la Terre. Alors, je vous ai signalé que si on est là, c'est grâce à Jupiter. J'ai travaillé 20 ans de ma vie sur la formation du système solaire, et je croyais naïvement au début qu'on mettait moins de temps pour former les petites planètes que les grosses. Les petites et les grosses. C'est le contraire. Près du Soleil, il fait chaud, on forme des petits débris. Loin du Soleil, il fait froid, et donc il y a du gaz, Et quand vous formez un débris, il absorbe tout le gaz. Donc Jupiter est formé avant la Terre. Et que fait Jupiter? Si Jupiter est trop près, il va agiter des corps qui ne peuvent pas se rassembler. Si Jupiter est trop loin, il ne va rien faire. Et donc, regardez, vous formez Jupiter au début. Entre Mars et Jupiter, il y a plein d'astéroïdes. C'est la matière première pour une planète qui ne s'est jamais formée. Mars lui-même est une toute petite planète. Ça fait partie de ces gens qui sont un peu loupés à la naissance, mais qu'on aime bien quand même. C'est un tout petit machin. Et la Terre est complète. La Terre a été aidée par Jupiter, vous voyez, a été aidée pour se former. Sans Jupiter, on n'aurait jamais formé la Terre. Et on a compris comment, en regardant les autres systèmes autour des autres étoiles, où on voit des Jupiters qui sont soit trop loin, soit trop près, soit orbite elliptique, etc. Donc très rapidement, je vous montre ce qui s'est passé au début. Vous avez ici Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, plein de petits corps. Vous cognez, et il se passe le même phénomène, que ça s'appelle une résonance en physique. Quand vous étiez petit, vous alliez jouer à votre cousine dans le jardin à 7 ans, et vous poussiez votre cousine sur une balançoire. Si vous poussez au hasard, la cousine ne bouge pas beaucoup. Si vous poussez à bonne cadence, la balançoire prend une grande amplitude. La cousine se met à crier très fort, ça vous amuse beaucoup, vos parents disent arrête de faire l'imbécile, et vous trouvez ça très drôle. Ben vous avez compris à 7 ans ce que c'est qu'une résonance. Donc ces planètes vont se rentrer en résonance, l'amplitude va croître, et regardez ce qui va se passer. Tout ça va mettre la pagaille, ils vont rentrer en résonance, pam, la pagaille est complètement. Et ce bombardement-là a eu lieu il y a 800 millions d'années après le début. La Lune emporte le témoignage et les cicatrices. Et 800 millions d'années après le début, c'était il y a 3,8 milliards d'années, au moment où la vie apparaissait sur Terre. Et voilà, attendez, la vie a été détruite. Peut-être que c'est le contraire. La croûte terrestre a été épaisse, le bombardement a cassé la croûte, dérive des continents, c'est très bon pour la vie ça, et peut-être que ça a apporté une matière première dont on avait besoin pour que la vie apparaisse. C'est peut-être nos origines. Alors rapidement, quelques dernières nouvelles. Le Soleil, c'est très actif. Tsunami sur le Soleil. Mercure, qu'on a vu récemment, on n'y comprend rien, donc ça c'est un beau sujet de thèse, on ne comprend rien. Regardez sur Mars, les dunes ont bougé, de manière très différente qu'on comprenait. Regardez ça, c'est pas un bijoutier Place Vendôme, c'est le printemps qui apparaît sur Mars, quand la glace s'en va. Là, c'est une sonde qu'on a lancée qui va se poser là pour voir s'il y avait des traces de vie primitives. Là, c'est un corps qui a frôlé, passé à 324 000 km de la Terre et qu'on a photographié à ce moment-là. Deux astéroïdes en collision. Lutetia, astéroïde trouvé. Une comète auquel on ne comprend rien ici. Hartley 2, trouvée il y a quelques mois. Vesta, regardez Vesta, très surprenant. On l'a regardé, c'est très gros par rapport à d'autres astéroïdes. Et regardez ici une montagne qui fait 22 km de haut. Et à côté de la montagne, une falaise. Le document date d'avant-hier, une falaise qui fait 23 km. Donc si vous planchez au bord, je sens qu'on va mettre à la porte, là, dans pas longtemps. C'est... D'accord. Vous me donnez 5 minutes, pas plus. 5 minutes. 5 minutes. Les orages sur Saturne, dont je n'ai pas le temps de parler. La mission Voyager, dont je n'ai pas le temps de parler. La mission Cassini, dont je vous ai parlé rapidement. On cherche ce qu'il y a sur Saturne.
On va laisser partir ceux qui
ont... D'accord. D'accord. Alors, simplement, bah, écoutez, je vais conclure pour ceux qui prennent le bus. Ça, c'est ce que je n'ai pas le temps de vous donner. Allez donc faire une promenade sur Titan. Et si vous allez sur Titan, vous trouvez des lacs de méthane liquide alimentés par des rivières de méthane liquide, une puits de méthane, dans un sol qui est de l'eau, mais de l'eau glacée à moins de 100 degrés, c'est plus dur que la roche sur Terre. Et voici à quoi ressemble le paysage de Titan, avec des montagnes qui n'ont pas plus d'un kilomètre, qui sont toutes petites. Je vais conclure maintenant. Ah d'accord, ceux qui n'ont pas le bus, il y a un bus, je ne sais pas qui s'en va. Donc... Mais faites venir le chauffeur, hein, pas de problème. Hein, c'est le... je fais juste la conclusion. Alors, la conclusion, il y a là pour 5 minutes. La sonde Cassini avait une sonde européenne qui était attachée sur elle, qui a plongé dans Titan. Et je vous montre les images, les 350 images qui ont été prises lors de la plongée. Vous avez ici la Terre et le Soleil. La Terre et la Lune, pardon. Avec le Soleil, avec la Terre et la Lune sont tout petits par rapport au Soleil. On fait un zoom arrière et vous avez par là Saturne et Titan. Et vous avez la sonde Huygens qui a été lâchée pour plonger dans Titan. Il n'y avait pas de moteur, donc c'est un tir direct. J'étais une fois à la télé avec des footballeurs, Zidane et toute la bande. Je leur ai dit que nous, quand on tire un coup franc, on réussissait le but à coup sûr, et pourtant on est moins payé qu'eux. Donc on va plonger ici, et les images, comment dirais-je, de Titan, l'image de synthèse, vont être remplacées par des images réelles. Vous avez la distance qui varie ici, la vitesse qui varie. Il y a un bouclier thermique à l'avant construit par la France, 3 parachutes qui se sont ouverts. Et là, nous plongeons dans Titan. Vous allez voir ce qu'on voit quand on plonge dans Titan, en chute libre d'abord, puis freiné par les parachutes. On arrive à 20 000 km à l'heure. Pas de radar sur la route, c'est bon, on peut y aller. Et là, vous voyez qu'on rentre dans les nuages. Et donc là, dans l'immédiat, on voit rien. On voit que le Soleil est par là. On est à 130 km d'altitude. Et on va plonger en chute libre dans Titan. Et plongeant dans Titan, on ne savait pas si la surface était liquide ou solide. C'est-à-dire qu'on ne savait pas s'il fallait mettre des roues ou des rames. Et on plonge comme ça, avec cette sonde européenne. Là, on n'est plus qu'à 60 km d'altitude. Et là, les nuages se déchirent un petit peu. Et il semble bien qu'il y a quelque chose là, en bas. On va essayer de voir de quoi il s'agit de plus près. Plongeons toujours, on est maintenant à 43 km d'altitude, à peu près l'altitude d'un ballon sur Terre. On n'est plus qu'à 70 km à l'heure. Et là, on voit commencer à apparaître des choses qui, visiblement, c'est un sol solide et pas un sol liquide. Donc plongeons. On n'est plus qu'à 27 km d'altitude. On continue, les parachutes ont bien freiné, on n'est plus qu'à 30 km/h. Ici, là, vous êtes maintenant à 20 km d'altitude, l'altitude d'un avion de chasse à peu près sur Terre. Et on continue à la descente, qui a été freinée, heureusement. Attachez bien votre ceinture, parce qu'on va cogner à 17 km/h, hein, donc ça fait un petit peu mal quand on cogne. Et là, vous voyez, on n'est plus qu'à maintenant 12 km, 11 km d'altitude, l'altitude d'un avion de ligne, ce que vous voyez de l'hublot d'un avion. Et là, visiblement, on voit une rivière arriver, et puis on voit un sol avec des collines, c'est pas très élevé ici. On n'est plus qu'à 8 km, 7 km d'altitude. On voit que l'horizon est un peu courbe, Titan est un peu plus petit que la Terre, à peu près deux fois plus petit. C'est un des plus gros satellites, mais quand même plus petit que la Terre. Et vous n'êtes plus qu'à 3 km d'altitude, et voilà le paysage qu'on a en se posant. Et donc on va se poser, il n'y a plus que 2 km ici, sur ce territoire, dont la couleur est à peu près correcte ici, c'est quelque chose d'un petit peu brun-jaune à peu près. Et là, attention, on va cogner, on va arriver, et poum, on est par terre. Et donc là, l'horizon ici, vous êtes couché par terre, c'est-à-dire que les cailloux qui sont là n'ont que 5 à 10 cm de dimension, on ne voit pas très loin, et donc c'est solide. Mais mes collègues m'ont dit, oui, mais il a plu il y a deux jours. Hein, donc si vous marchez sur le sol, ça fera splash, splash. Hein, c'est un peu comme du sable mouillé ou comme une crème brûlée, en quelque sorte. Alors rapidement, je vais déjà montrer. Alors je vais conclure. Et mes conclusions étaient qu'un des grands problèmes qu'on a, c'est de trouver donc de la vie dans l'univers. Et donc on a communiqué déjà, c'est-à-dire qu'on a envoyé un signal radio à quelques collègues des années 60 ici. Et voilà le signal qu'on a lancé vers la Madercule. Pourquoi la Madercule ? Parce que la Madercule, il y a 1 million d'étoiles. On se dit, il y en a bien une qui a peut-être des planètes autour, peut-être habitées. Et le message qu'on envoie, c'est des 0 et des 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. On l'envoie vers la Madercule. Le message dure 3 minutes. Donc il faut que les gens là-bas, ils pointent dans la bonne direction. Ils ne connaissent pas la Terre, même le Soleil. Ils pointent dans la bonne direction. C'est la bonne longueur d'onde. Si vous écoutez Europe, ce n'est pas Luxembourg. Si vous écoutez France Culture, ce n'est pas France Musique. Donc la bonne longueur d'onde, la bonne direction, et pendant 3 minutes. S'ils ont le bon goût de recueillir le signal, ils ont 0, 0, 1, 0. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'ils sont intelligents, ils comprennent que le nombre total de 0 et de 1 est le produit de deux nombres premiers, que le premier nombre premier est le nombre de colonnes, que le deuxième nombre premier est le nombre de lignes, ils remplacent les 0 par des blancs et les 1 par des noirs, ça donne ça. Ça vous apprend qu'on est de compter de 1 à 10 en binaire, ça vous donne la double hélice, la taille du télescope, le bonhomme, la troisième planète à portée du Soleil, etc. Donc on donne quelques informations de base. En tout cas, je peux vous dire qu'on a soumis ce message à nos collègues astronomes, aucun n'a compris ce que ça voulait dire. Enfin, supposons que l'extraterrestre moyen soit d'intelligence supérieure à l'astronome moyen, hein, et voilà ce qu'on envoie. Il y en a qui ont dit, mais vous êtes fous. C'est fou de lancer ça, ils vont savoir où on est. Parce que s'il arrive dans 50 000 ans, s'ils sont polis nous répondre, dans 100 000 ans, on a la réponse. Hein. Alors ce qu'on a mis, on a mis des disques à bord de la sonde Voyager qui quitte le système solaire, et sur ce disque, on a mis de la musique, Bach, Beethoven, Mozart, musique africaine, du jazz, etc. On a mis bonjour en 150 langages terrestres, y compris le corse, le breton, l'alsacien, etc. On a mis des photos de la Terre, on a mis 150 photos de la Terre. Qu'est-ce que vous auriez mis, vous ? Alors les photos, on a mis les photos d'un squelette humain, enfin ça donne la gravité. On a mis la photo d'un embouteillage dans une grande ville à 6 heures du soir. On a mis la photo d'un embouteillage à 6 heures du soir près d'un point d'eau en Afrique, nature différente. Et puis on a eu un problème, c'est qu'on a voulu montrer la photo d'un homme et d'une femme. Alors là, comment vous les mettez ? Vous les mettez en costume cravate, en jupette grecque, en toge romaine, en costume traditionnel japonais. Et on s'est dit, on va les mettre tout nus, ce qui est plus informatif en quelque sorte. Alors là, on a une ligue de vertu américaine qui sont déchaînées. En disant que c'est un scandale, donc, la pornographie dans l'espace aux frais du contribuable américain. Vous voyez comme quoi l'astronomie conduit à beaucoup de choses. Et donc on a examiné avec soin 10 000 photographies de couples tout nus, pour choisir une photo, où il faut être tordu pour imaginer je ne sais pas quoi. Et donc on a choisi une photo avec un monsieur et une dame, vue de face, tenant la main, souriant tous les deux. Le monsieur, je ne peux pas dire, mais la dame est superbe. Et ils sont souriants, sympa, le monsieur fait bonjour, la dame sourit, etc. Et là, les lignes de défense des femmes ont protesté. Ah, c'est encore le bonhomme qui est en avant. Bon, trop tard, c'est parti. Hein, donc, cette sonde arrivera du côté des étoiles de la constellation d'Ophiuchus dans 5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, les étoiles seront parties. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin primitif? Peut-être. Vous voyez, c'est un peu comme on aurait aimé que les archéologues des Sumériens, des Égyptiens, des Mésopotamiens nous aient laissé quelques messages. Voilà ce qu'on a essayé. Et vous comprenez, ça, c'est des bouteilles lancées à la mer. C'est plus des messages à nous-mêmes qu'on s'est envoyés que des messages à d'éventuels extraterrestres. Alors, si vous avez 25 milliards d'euros, donc vous ne savez pas faire dans l'immédiat, je vous propose de lancer quelques télescopes de 10 mètres dans l'espace, reliés par laser et par interférométrie au bout de cette flèche, vous trouverez une autre Terre. C'est encore un peu cher. C'est encore un peu compliqué. Mais on s'assoira probablement dans les années 2020. Donc, on aura une autre manière encore de trouver notre Terre. Vous voyez, c'est le début d'une aventure. Et finalement, pour terminer, dans ce calendrier que je vous donnais, entre ces deux traces de pas, dans le calendrier, il s'est écoulé 2 heures, en fait 3,9 millions d'années, Là, c'est le pied de l'homme sur la Lune. Là, c'est une trace de pas dans la corne de l'Afrique. Et mes collègues qui travaillent là-dessus, moi, je ne travaille pas là-dessus, ils ont beaucoup d'imagination. Parce qu'ils ont, ils voient l'enfoncement du pied dans le sol, 40 kilos, c'est une femme. Ils voient que le pied a tourné, donc elle avait quelque chose dans les bras, probablement un bébé. Pourquoi le pied a tourné, attaqué par un animal sauvage? Donc une femme, bébé, l'animal sauvage. Beaucoup d'imagination à propos de cette trace de pas. Et entre ces deux moments, c'est toute l'histoire de l'humanité. Et finalement, qui est un clin d'œil dans l'histoire de l'univers, mais qui est une belle histoire quand même. Et là, voilà, bah, c'est une photo, un réel cratère sur Mars, ça, c'est mes sentiments vis-à-vis de vous. Et puis, la dernière photo, bah, c'est la conclusion. Le futur de la lumière, bah, c'est le noir, en fait. Mais dans 10, puis d'une centaine de zéros. Et c'est les grandes questions scientifiques. À chaque fois, on croit en avoir résolu une, il en reste plein d'autres. Donc voilà, c'est le moment où j'étais prêt à répondre aux questions de tout le monde, mais ils sont tous partis parce qu'ils dormaient complètement. Hein, c'est le... Bon, ben, vos questions, je les attends, parce que je n'ai pas tout dit. Hein.